Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à cette activité organisée sous les auspices de la chaire L.R. Wilson sur le droit du commerce électronique du commerce électronique et des technologies de l'information. Alors, il s'agit de nos entretiens 2006-2007 et nous avons avec nous deux experts du ministère du Revenu du Québec. Il s'agit de Maître Patricia Nau et de M. Jacques Gilbert, qui vont nous entretenir des services électroniques de Revenu Québec, aspects juridiques et protection des renseignements confidentiels. Leur exposé va durer un peu plus d'une heure. On aura une pause ensuite et on reviendra ensuite pour une période d'échange et de questions que vous serez invité éventuellement à interroger, à poser des questions, éventuellement à examiner certains éléments de l'exposé de nos invités. Alors, je veux d'ailleurs remercier nos deux invités d'avoir accepté de venir partager leur savoir dans le cadre de ces entretiens. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.
Alors, bonjour. Comme Maître Bell le disait, mon nom est Patricia Nau. Je suis avocate à Revenu Québec depuis 1996. Je suis accompagnée de Jacques Gilbert, qui est conseiller en protection des renseignements personnels à Revenu Québec aussi. Moi, je travaille dans le domaine des technologies de l'information depuis 1999. Donc, en 1999, j'ai été désignée volontaire pour ce dossier-là. Et pour croire que ça me plaisait parce que j'ai continué. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des services électroniques de Revenu Québec, les aspects juridiques, la protection des renseignements confidentiels. Comme Maître Bell l'a précisé, il va y avoir une période de questions à la fin. C'est que beaucoup de matières, on essayait de faire le tour de la matière qu'on couvre à Revenu Québec sans aller dans le détail. Des fois, on y va, mais on ne savait pas quel champ d'intérêt vous auriez. Donc, on est prêt à répondre à des questions à la fin sur des points précis là, que vous voudriez voir éclaircir. Donc, premièrement, on est rendu. L'évolution des services électroniques. 1994 à 1997, on a eu une première génération de services électroniques. On a eu le transfert électronique de données qui permettait aux particuliers, par un préparateur, pas le particulier lui-même, mais le préparateur, de transmettre les données d'une déclaration de revenus par Internet. Ensuite, on avait le DI-paiement, l'échange de documents informatisés pour les paiements, qui permettait le transfert électronique des déclarations puis le paiement afférent. On a eu la transmission de relevés de renseignements sur disquette. On avait une vitrine Internet, un peu comme tous les ministères éventuellement en ont une. Et il y avait le service d'info-remboursement qui permettait à un particulier d'aller consulter à l'aide d'informations comme son numéro d'assurance sociale, sa ligne 199 de son revenu ou son code d'accès, des éléments qui lui permettaient de voir où était rendue sa déclaration de revenu, l'état de traitement de sa déclaration de revenu. En 1997, il y avait, devant l'émergence mondiale d'autoroute de l'information, le gouvernement a pris certaines orientations stratégiques et le ministère du Revenu aussi. Donc, on a eu une orientation stratégique de recourir aux échanges électroniques dans le but d'améliorer l'administration publique. En 1998, il y a eu le lancement du projet pour la prestation électronique de services. C'était à l'époque des services qui s'adressaient plus aux entreprises. En 2000, on a eu la déclaration de revenus du particulier par Internet, mais la production par le particulier lui-même. Donc, c'était une évolution. On a eu, en 2002, la première livraison des services électroniques qui s'adressait aux entreprises, qui faisait appel à l'infrastructure vraiment là, d'une inscription, qu'on donnait un code d'utilisateur, mot de passe, et là, vraiment, la personne, l'entreprise avait accès à des renseignements confidentiels. En 2004, on a eu un partenariat avec la Régie des rentes du Québec qui utilisait notre fonction de vérification d'identité. Donc, la FVI, la fonction de vérification d'identité qu'on a développée en 2002 pour les entreprises Donc, la corroboration de l'identité des gens de l'entreprise a été, pas de l'entreprise, excusez, du particulier, parce que pour la Régie des rentes, c'était notre particulier. La corroboration des données pour authentifier cette personne-là a été réutilisée par la Régie des rentes. Donc, la personne venait se faire authentifier chez nous. On retournait le contribuable, le particulier, à la Régie des rentes pour pouvoir utiliser la prestation électronique de service de la Régie des rentes. Ça ne devait pas être pire que ça parce qu'en 2005, là, c'est le gouvernement, donc le Service québécois d'authentification gouvernementale qui est devenu Clic Secure, qui utilise pour au niveau gouvernemental notre fonction de vérification d'identité. En continuité, ben, c'est sûr que là, présentement, on travaille sur l'amélioration des services actuels. On travaille aussi sur des nouveaux services, par exemple, pour que le particulier puisse, comme l'entreprise, aller consulter son dossier fiscal en ligne. Et il y a aussi, on a encore des travaux avec le gouvernement en général. On travaille un peu sur un projet qui ressemble au dossier fiscal d'entreprise qu'on appelle l'espace citoyen, qui permet à chacun des citoyens d'aller consulter son dossier au gouvernement, que ce soit pour la Régie des rentes, c'est un partenariat encore entre plusieurs ministères et organismes, pour pouvoir consulter le dossier en ligne. Donc, on va avec les dispositions législatives, souvent les gens nous demandent comment est-ce que vous avez pu faire pour faire des affaires électroniques avant le temps, avant la loi cadre, la loi conformée à juridique des technologies de l'information. Nous, on avait adopté en 1995 l'article 37.1. Ça, c'est la nouvelle version 96, si on veut, parce qu'en 95, cette disposition-là prévoyait la voie réglementaire pour les conditions et modalités. Donc, on disait qu'on pouvait faire des affaires électroniques aux conditions et modalités déterminées par règlement. C'était très lourd à gérer. Donc, en 96, on a modifié cette disposition-là qui se lit depuis comme suit. Une personne qui, dans les cas déterminés par le ministre, satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par celui-ci, peut transmettre par voie télématique ou sur support informatique un document ou un renseignement exigible en vertu d'une loi fiscale. C'est assez archaïque, là, comme... En tout cas, on va la modifier, on va essayer de l'adapter avec la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui est peut-être un vocabulaire un petit peu moins archaïque, là. C'est un de mes dossiers. Et c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, le ministre va accepter qu'une personne transmette sa déclaration de revenus avec un logiciel qui a été reconnu par Revenu Québec si, par exemple, elle n'a pas fait faillite dans les deux dernières ou les cinq dernières années. Donc, c'est un ensemble de conditions et modalités qui permettent à quelqu'un d'utiliser un support électronique pour remplir une obligation fiscale. Un autre exemple, c'est par exemple, on peut offrir certains services électroniques à des entreprises, mais à condition que ces gens-là soient inscrits au service électronique. Comme par exemple, une entreprise pourrait transmettre sa déclaration de revenus ou produire ses déclarations de taxes à condition d'être inscrit à Clic Revenu. Donc, quand on parle de conditions et modalités, c'est un peu dans ce genre-là. Une autre disposition qui nous aide beaucoup, c'est la disposition 1.1 de la loi sur le ministère du Revenu. En général, contrairement à plusieurs ministères et organismes, en général, nous, nos dispositions fiscales ne prévoient pas que le document doit être signé. On va dire que la personne doit remplir son obligation fiscale à l'aide du formulaire prescrit, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Donc, on a une notion de prescription avec laquelle on n'a pas les mains liées là, par la signature. Là. Donc ça nous a aidé beaucoup. Donc l'article dit que dans toute loi fiscale et les règlements édictés en vertu d'une telle loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, le mot prescrit signifie, dans le cas d'un formulaire ou d'un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le sous-ministre, et dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement. Donc, on peut prescrire un formulaire qui n'a pas de signature. Le fait de prescrire le formulaire, c'est sans égard à la signature, dans le fond. C'est qu'on peut dire, on en prescrit un électronique qui n'a pas de signature, on en prescrit un papier sur lequel on veut une signature. La page suivante, il y a un exemple qui... L'article 412 de la loi sur la taxe de vente du Québec, c'est l'article qui prévoit l'obligation pour une entreprise de demander un numéro d'inscription en TVQ. Donc, la plupart des articles, les dispositions fiscales là, sont rédigées de cette façon-là. Une demande d'inscription doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits et présentée au ministre de la manière prescrite par ce dernier. Donc, dans ce cas-là, on a prescrit plusieurs versions. On a, même sur papier, on a une version qui s'adresse aux particuliers en affaires. On a une version qui s'adresse aux autres entreprises. On a des versions, par exemple, une version PDF qui est accessible sur le site Internet. On a une application Internet qu'on a prescrite. C'est une application qui permet d'obtenir son numéro TVQ, numéro TPS, numéro d'employeur, numéro d'impôt des corporations. Ça nous permet d'obtenir ça, mais en fonction du profil d'utilisateur. Donc, la personne va compléter, va répondre aux questions et le résultat, ça constitue son formulaire prescrit et ça contient les renseignements prescrits en fonction du client qui est venu venu utiliser le formulaire, l'application pour demander ses numéros. Puis dans ce cas-là, la manière prescrite, c'est par Internet, parce que le ministre a mis à la disposition des gens un outil Internet pour faire la demande d'inscription. Donc, je vais passer la parole à Jacques, qui s'occupe principalement de la protection des renseignements personnels.
Bonjour. OK, la section 3, nous, on a pensé, avant de passer aux différents niveaux d'authentification à Revenu Québec, de vous faire un survol très, très rapide là, des différents concepts concernant l'authentification des citoyens. Ces concepts-là, d'ailleurs, ont été pris à même le document du Conseil du Trésor relié à l'authentification des citoyens et des entreprises dans le cadre du gouvernement en ligne, orientation et stratégie, produit en août 2004. OK, je vais faire rapidement. Au niveau des concepts, au niveau de la vérification d'identité, une vérification d'identité permet d'établir l'identité d'une personne. Elle peut être effectuée à partir de caractéristiques, de connaissances ou d'objets qu'une personne présente ou possède. La vérification d'identité préalable est surtout effectuée lors de la délivrance d'un secret. La vérification d'identité préalable, lorsqu'elle est faite sur place, règle générale, c'est avec des pièces d'identité. Lorsqu'elle est faite à distance, c'est au moyen d'une quantité plus ou moins grande d'informations provenant de la personne. La vérification d'identité subséquente, tant qu'à elle, également appelée authentification, survient à chaque fois qu'une personne utilise un identifiant pour établir son identité. L'identifiant. L'identifiant est une information associée à une personne, connue de celle-ci ou contenue sur un support logique ou un support transportable. On pense ici à la carte de guichet automatique, comme exemple, dont elle est détentrice et qui permet son identification. On parle de code d'utilisateur dans un contexte d'échange électronique. L'authentifiant, tant qu'à lui, l'authentifiant est une information confidentielle détenue par la personne qui permet son authentification. On peut penser au mot de passe, au NIP. L'authentification est une acte qui permet de valider l'identité déclarée d'une personne. La fonction d'authentification permet à un ministère organisme de s'assurer qu'il communique bien avec la bonne personne, avec le bon citoyen ou le bon représentant d'organisation. OK. Par la suite, nous allons parler des niveaux de confiance de l'authentification. Aucune authentification, on parle généralement de services anonymes, un service de nature informationnelle. Un niveau d'authentification de niveau bas, lorsqu'une vérification d'identité n'est pas essentielle, mais qui peut être utile de reconnaître l'utilisateur. Souvent utilisé pour des fins de personnalisation. Comme exemple, on peut penser à la conservation des préférences de l'utilisateur au regard d'un mode d'affichage. L'authentification de niveau bas, le mode d'authentification le plus utilisé au ministère du Revenu, c'est lorsqu'on veut un degré de certitude raisonnable de l'identité de l'utilisateur afin de lui offrir un service. Ça concerne une prestataire électronique de service où l'usager peut consulter les renseignements inscrits à son dossier et y apporter des modifications. Par contre, en ce qui a trait à l'authentification de niveau élevé, on a une très grande certitude de l'identité de l'utilisateur. Ça implique des montants d'argent élevés, on peut penser aux renseignements bancaires, ou des renseignements qui sont communiqués de nature très sensible, risque élevé ou très élevé, on pense à des renseignements de nature sur la santé ou des renseignements relatifs à la sécurité de l'État. Okay. Là, on a au niveau des concepts, on a fini. La section 4 traite plus spécialement des différents niveaux d'authentification Revenu Québec. Au aucune authentification requise. Au ministère de la Revenue du Québec, on a un service qui permet de valider le numéro de TVQ. La seule chose que ça fait, c'est qu'on rentre le numéro de TVQ. Là, chaque personne, là, comme, je suppose que vous avez remarqué, là, quand vous avez une facture, il y a un numéro de TVQ. Là. Avec le numéro de TVQ, le service permet de dire si le numéro de TVQ est valide. OK, puis vous pouvez avoir le nom de l'entreprise rattaché à ce numéro de TVQ. Là. Ça, c'est un service complètement anonyme. Il n'existe aucune authentification. L'authentification de niveau bas, on a un exemple, le service de requête dirigée à Revenu Québec, ça permet à un internaute, ça permet à quelqu'un de formuler une demande à Revenu Québec de façon sécurisée. OK, la personne formule la demande, la seule chose qu'on lui demande, c'est des informations personnelles pour pouvoir lui répondre. Il n'y a aucune authentification en tant que telle. Ils vont mentionner, par contre, que la réponse est toujours transmise par des canaux traditionnels, c'est-à-dire soit par la poste, soit par téléphone. La raison est bien simple, c'est qu'étant donné, ni plus ou moins, que la réponse peut contenir, dans certains cas, des renseignements personnels, on a jugé que notre courrier électronique présentement utilisé au meilleur mercure pour ce type de réponse n'était pas suffisamment sécuritaire. Ça respecte aussi une exigence du Conseil du Trésor concernant la transmission de renseignements par du courrier électronique. Avec code d'utilisateur et mot de passe commun, on peut penser à la consultation des données privilégiées par les consommateurs de logiciels. Au ministère de Revenus, il y a des gens qui ont besoin d'informations privilégiées, à diffusion restreinte. On leur donne accès à l'information privilégiée. OK? Ces gens-là, ni plus ou moins, après, ça peut être inscrit à Revenu Québec. C'est une inscription, c'est pas une inscription du type de clic revenu, là. C'est rien de son nom, prénom, ces choses-là. On leur fournit, ni plus ou moins, un code d'utilisateur, un mot de passe, qui est utilisé par l'ensemble des consommateurs de logiciels. C'est ce qu'on appelle, nous, avec code d'utilisateur et mot de passe commun. OK, par la suite, au niveau de l'authentification de niveau moyen, l'authentification de niveau moyen, OK, ici, on parle de par corroboration de données avec un seul secret. OK, parce qu'on va voir dans le deuxième cas, le prochain, là, c'est avec code d'utilisateur et mot de passe. Là, ce qu'on parle de par corroboration de données avec un seul secret, c'est sans communication de renseignements confidentiels. Okay, je veux dire, par l'exemple, le service d'inscription en loi, ça permet à une entreprise de s'inscrire au fichier de Revenu Québec. Okay, mais là, tout le processus, c'est un processus qui est assez long. La personne, à la fin du processus, elle est inscrite, elle a rempli les différentes formalités, mais par contre, elle n'a jamais eu accès à rien là, d'informations confidentielles en tant que telles. La même chose pour le service d'impôt net. Nous, on considère que le service d'impôt net permet, ni plus ou moins, d'obtenir un code d'accès, permet de transmettre la déclaration de revenus, permet également de connaître le résultat de son traitement. Mais rien pourrait dire le résultat du traitement, mais plus ou moins, c'est pour dire que sa demande a été traitée et qu'il devrait avoir son avis de cotisation dans les prochains jours. OK, ça, c'est. Puis le troisième service aussi, on a un service de changement d'adresse. Vous allez voir plus loin, on l'a plus loin avec code utilisateur mot de passe. C'est qu'un un internaute peut changer son adresse dans les fichiers de Revenu Québec, mais par contre, il n'aura jamais accès à les renseignements de son adresse. OK, c'est ça ce qu'on appelle. Par corrompement de données avec un seul secret, sans consultation de données confidentielles. Pour l'autre section, je vais passer par la protection.
Donc, c'est ça, le prochain niveau d'authentification, c'est avec code d'utilisateur et mot de passe qui implique que la personne peut consulter le dossier, son dossier personnel. Ça nécessite une inscription à clic revenu. On va parler d'inscription à clic revenu un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, on a plusieurs services qui sont accessibles lorsqu'on est inscrit à clic revenu. Le premièrement, une boîte de courriel sécurisée. Ça, c'est autant pour les entreprises que pour les particuliers. Comme Jacques l'a mentionné, il y a une directive gouvernementale qui demande de ne pas utiliser le courriel non sécurisé pour transmettre l'information confidentielle, ce qui est tout à fait logique. Donc, pour pouvoir communiquer avec notre clientèle, que ce soit les particuliers ou les entreprises, on a dû mettre en place un espace sécurisé pour qu'on puisse déposer l'information, que ce soit la cotisation, que ce soit des messages concernant le dossier fiscal de la personne. Donc, on a mis en place cette boîte de courriel sécurisée-là, qui est accessible avec le code d'utilisateur mot de passe, puis c'est dans une session sécurisée. Il y a plusieurs services qui sont offerts. Pour les particuliers, on a changement d'adresse. Contrairement à celui dont Jacques parlait plus tôt, celui-là, on peut accéder à l'adresse actuelle qu'on veut modifier. Donc, par exemple, une entreprise ou un particulier en affaires qui a plus d'une adresse dans dans nos systèmes peut choisir laquelle il veut modifier. Il y a la transmission de déclaration de revenus. C'est là un service qui est comme impôt net. C'est que la personne peut transmettre sa déclaration de revenus à partir des services électroniques Clic Revenus. Le troisième service, c'est la consultation des messages. C'est que, comme je disais plus tôt, on peut consulter les messages qui sont transmis par Revenu Québec dans cette boîte-là et ça peut contenir de l'information confidentielle. Le plus bel exemple, c'est la cotisation par Internet. Je vais vous en parler peut-être un petit peu plus longuement comme service parce que ça a été un des plus beaux défis juridiques en 2004. Là. J'ai eu beaucoup de discussions avec plusieurs juristes, puis même au fédéral, puis on passait un petit peu pour des cow-boys au début. Là. Quand on parlait des cotisations par Internet, là, c'est même moi au début, je n'étais pas convaincue, mais finalement ça marche. Donc, la cotisation par Internet, au niveau, peut-être un petit historique, c'est que les dispositions qui visaient les cotisations étaient rédigées en termes de date de mise à la poste pour bénéficier de certaines présomptions. On disait, par exemple, une présomption d'envoi à la date de mise à la poste, et la date de mise à la poste est présumée être celle inscrite dans la cotisation. On avait un jeu de présomption qui nous permettait de bénéficier justement de présomption d'envoi, si on veut. Donc, en 2001, juillet 2001, il y a eu un jugement de la Cour d'appel du Québec qui était le jugement Bray. Ce jugement-là, à l'époque, c'était la grève des postes. Donc, le ministère du Revenu a envoyé les avis de cotisation par bureau d'État. Le juge a conclu que notre disposition était très spécifique. On parlait de date de mise à la poste. Alors que dans certaines dispositions, on parlait de date de mise à la poste ou date d'un autre moyen de communication. En tout cas, on ouvrait la porte sur un autre moyen de communication, alors que les dispositions pour les présomptions des avis de cotisation étaient vraiment fermées. On parlait juste de date de mise à la poste. Donc, le juge a conclu que si on n'avait pas envoyé nos avis de cotisation par la poste, on n'avait pas respecté les dispositions, que le législateur ne parlait pas pour rien dire, puis qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas bénéficier de ces présomptions-là. Donc, on n'a pas modifié la loi à ce moment-là, on a juste appris et on a envoyé les avis de cotisation par la poste. Ce que dans le fond, on n'avait pas perdu, on avait perdu des intérêts de pénalité, parce que le ministre a toujours des pouvoirs de cotiser malgré des cotisations antérieures, puis c'est juste qu'au niveau des intérêts de pénalité, on avait perdu des droits. Au moment où on a pensé faire des avis de cotisation par Internet, mais là, on avait les mains liées. Donc, on a dû modifier la loi pour neutraliser, si on veut, notre disposition. Un, ça allait dans le sens de la loi concernant le code juridique des technologies de l'information, parce que, en tant que légiste, on doit prendre en considération cette loi-là pour essayer de neutraliser le plus possible, de légiférer en termes de résultats à atteindre et non pas de moyens à utiliser. Donc, c'est un des défis qu'on a dans les prochaines rédactions, si on veut, de ça s'applique aux lois sur le ministère du Revenu, les lois sur les impôts, tout ça, là, ça s'applique dans toutes les lois. Donc, c'était beaucoup de discussions, parce que là, il fallait trouver le terme qui reflétait vraiment l'obligation de Revenu Québec. Parce qu'on s'entend que Revenu Québec doit s'assurer que la cotisation est partie, mais pas qu'il est reçu. Parce que si on se met une obligation de réception, de s'assurer de la réception, on va devoir suivre chacun des cotisations, que ce soit par la poste, que ce soit par Internet. Donc, le choix, après plusieurs discussions, s'est arrêté sur envoi, qui traduisait l'obligation de Revenu Québec de dire il part d'un point, mais on n'a pas besoin de s'assurer de sa réception. Donc, on a choisi le mot « envoi » et pour le dossier à cotisation par Internet, on regardait l'article 31 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et l'article 31, pour bénéficier de la présomption d'envoi, on dit que le document technologique est présumé transmis, envoyé dans notre cas, lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur, puis que le geste n'a pas été contremandé. Donc, l'envoi, on n'avait pas vraiment de problème, parce que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'envoyait dans la boîte de courriel sécurisée. Je vais vous expliquer comment après, là. Et pour bénéficier de la présomption de réception, on s'est dit, c'est pas plus compliqué pour nous de bénéficier de la présomption de réception. Et compte tenu que c'est un moyen assez récent, on ne voulait pas non plus... La clientèle n'est pas nécessairement aguerrie, fait qu'on voulait mettre toutes les chances de notre côté et du côté du contribuable aussi. On s'est dit, on va même aller jusqu'à la présomption de réception. Donc, on dit que le document technologique est présumé reçu lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document. C'est ce bout-là qui nous intéressait. Donc, ce qu'on a fait, c'est que même si on avait l'adresse de courriel du contribuable, on a dit qu'on ne pouvait pas communiquer le renseignement confidentiel à une adresse de courriel ordinaire, qui n'était pas un courriel sécurisé. Puis, on... Je pense revenir. Puis, là, après ça, on s'est dit qu'il fallait convenir d'une adresse. Alors, on voulait envoyer des attestations par Internet, on ne voulait pas avoir des documents échangés qui conviennent que son adresse était. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans les logiciels d'impôt, dans les logiciels d'impôt qui visaient les particuliers eux-mêmes, donc pas via les préparateurs, vraiment le logiciel d'impôt qui était utilisé par le particulier qui transmettait sa déclaration lui-même, on lui demandait, on a fait un genre de convention qu'on intégrait à ça, on lui demandait, est-ce que vous voulez recevoir votre attestation par Internet? S'il répondait oui, on lui demandait s'il convenait, dans le fond, de dire, vous devez accepter que l'adresse, l'espace sécurisé que Revenu Québec va mettre à votre disposition, vous convenez que c'est l'adresse active pour recevoir l'invitation. Et si, dans cette fois, on lui demandait ça, et son adresse de courriel. Donc, même si la loi ne nous oblige pas à faire ce suivi-là, on s'assurait de la présomption de réception, et même si la loi ne nous obligeait pas à l'aviser, parce que compte tenu que l'obligation, la présomption de réception pouvait en bénéficier si on l'envoyait à l'adresse active qu'on avait convenu, c'était suffisant, mais on est allé plus loin. On a même mis en place un système de courriel non sécurisé à son adresse de courriel qui nous donnait pour l'aviser qu'il y avait un message déposé dans sa boîte de courriel sécurisée. Donc, ce n'était pas un message qui contenait d'informations confidentielles, c'était juste pour lui dire, regarde, c'est un message, va le consulter. Plus que ça, on a même mis en place un système que si la personne, l'adresse de courriel est invalide au moment où ça se fait de façon synchrone, là. Donc on envoie le courriel et l'invitation dans la boîte de courriel sécurisée, si le courriel revient comme quoi à cause que l'adresse est inactive ou qu'il a changé d'adresse, peu importe, on génère l'impression d'avis de cotisation pour le transmettre par la poste. Si après, je pense que 5 jours, la personne n'est pas venue consulter son avis de cotisation, il y a un mécanisme qui s'enclenche et l'avis de cotisation est transmis également par la poste. Donc même si ce n'est pas une obligation, on a voulu aller un peu plus loin compte tenu que c'était quand même assez nouveau. Puis l'avis de cotisation, c'est créateur de droits et d'obligations. Donc là, on ne voulait pas non plus mettre notre clientèle dans le pétrin. Là. Donc ça, c'est un des exemples d'un service pour lequel on a eu un beau défi juridique là, avec les modifications législatives et tout, là, la commission parlementaire. D'autres exemples de services qu'on offre, là, je vais passer rapidement, parce que c'est surtout des services qui sont pour les entreprises, qui est une clientèle. Si je présentais à des comptables, probablement que ça les intéressait plus. Là, mais... Donc, l'inscription au fichier de Revenu Québec, changement d'adresse, production périodique de différentes déclarations, une entreprise qui doit faire une déclaration en taxe et retenue à la source, ils peuvent tous faire ça par clic revenu. Production des RSV1, sommaire de l'employeur et consultation du dossier de l'entreprise. Encore. Ça, c'est un beau tableau, mais je n'ai pas le crédit de l'avoir fait. Là. Mais on va parler de l'inscription au service clic revenu. C'est un tableau qui résume le rôle des intervenants, les différents intervenants, parce qu'en 99-2000, quand on a mis ça en place, il fallait créer des rôles, il fallait inventer, dans le fond, un processus d'inscription et créer des rôles qui nous permettaient de reconnaître là, les différentes personnes. Donc, ce tableau-là résume le rôle des intervenants. Donc, je pense que les deux rôles les plus importants, c'est le représentant autorisé, puis le responsable des services électroniques. Lorsque je parle du représentant autorisé, nous, on s'est basé beaucoup sur l'Vendor Management, la théorie du mandat apparent. C'est que le représentant autorisé, lorsqu'on va parler avec une personne morale, une société, comme on appelle chez nous, on va parler avec le président, vice-président, secrétaire, trésorier. Le représentant autorisé peut être une personne autorisée par une résolution du conseil d'administration, mais on ne pourra pas la reconnaître systémiquement. Là. On ne pourra pas le faire en ligne. Donc, le représentant autorisé, le représentant d'office, comme on l'appelle, c'est président, vice-président, secrétaire, trésorier. Dans le cas d'une société de personnes, c'est un associé. Dans le cas du parti en affaires, c'est lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire représenter. Ça veut juste dire qu'il ne pourra pas bénéficier d'une activation de ces codes en ligne. Donc, vous pourrez le regarder. Le responsable des services électroniques, c'est Jacques, on va en parler un peu plus tard, c'est le gestionnaire d'accès. C'est le représentant auprès de Revenu Québec qui a tous les pouvoirs, puis c'est un gestionnaire d'accès, là, celui qui gère, à qui il donne les codes d'utilisateur. Donc, l'inscription au service Clic Revenu, il y a deux façons, dans le fond, il y a deux inscriptions. Il y a une première inscription qui se fait avec retour de documents sur support papier. Cette première inscription-là est utilisée maintenant à partir de la livraison du 19 novembre. Là, on a une livraison la semaine prochaine. Elle va être utilisée juste par 15% de la clientèle. Mais c'est le scénario qu'on a mis en place en premier, en 2000. Donc, ce scénario-là, c'est la demande d'inscription. Les procurations sont complétées en ligne. C'est juste qu'on ne pourra pas activer les codes tant qu'on n'a pas reçu les documents papier au ministère. Le lien va être établi, si on veut, entre l'entreprise et la demande d'inscription avec le document papier signé, puisqu'on n'active pas tant qu'on n'a pas reçu les papiers. Dans le fond, les conséquences de la signature du représentant autorisé sur les procurations, c'est un, ils vont désigner les responsables des services électroniques qui se trouvent à être les représentants auprès de Revenu Québec. Et en même temps, ils autorisent Revenu Québec à communiquer des renseignements confidentiels à ces responsables des services électroniques-là. Le fait de signer la demande d'inscription, ils acceptent l'offre de service de Revenu Québec. Ils s'engagent à respecter les conditions d'utilisation. Puis ils reconnaissent que toutes les transactions effectuées vont être liées, vont lier l'entreprise. C'est que bon, je vais peut-être en parler tout de suite, c'est que nous, on a toujours évité de créer des fictions juridiques. C'est que moi, je ne suis pas une partisane, si on veut, de deux clics égale une signature. Ou c'est réputé signé, mettons. S'il écrit ça, c'est réputé signé. Moi, je pense que c'est une fiction juridique. Puis j'en ai discuté souvent avec Jeanne Proulx, avec qui je travaille un comité à la justice. Vous connaissez sûrement Maître Proulx. Et nous, c'est une position qu'on partage. C'est que pour nous, un clic, c'est pas une signature. Donc, dans les conditions, quand j'ai rédigé les conditions d'utilisation pour Clic Revenu, j'ai évité les fictions juridiques. J'ai jamais écrit dans ces conditions-là que toute transaction effectuée avec un code d'utilisateur, mot de passe, vont être réputées signées. Moi, ce que j'ai écrit, c'est que toute transaction va avoir le même effet juridique que si ça avait été signé par l'entreprise. Donc, on est plus allé sur l'effet juridique que sur la fiction que c'est signé, par exemple. Donc, nous autres, j'ai pris le chemin un peu plus prudent, là. Donc, ensuite, ce parcours-là, on a une activation d'inscription sur réception de documents. Donc, c'est un coût qu'on va avoir reçu, par exemple. Il va être utilisé encore, ce parcours-là. Dans le cours, on a un comptable, par exemple, qui inscrit une entreprise. Le comptable va devoir retourner la résolution du conseil d'administration ou la procuration de la société de personnes avec sa pile de procuration, demande d'inscription, pour qu'on s'assure de son pouvoir de lier cette entreprise-là. Le deuxième parcours, je vous avoue qu'il y a 5 ans, on ne pensait pas être rendu là. Ça a été vraiment beaucoup de discussions, ça a été une évolution. La théorie des petits pas, là, on a commencé assez sécuritaire. Puis là, on s'est aperçu qu'on pouvait quand même alléger un peu parce que la clientèle, c'est quand même très lourd. Là. Et c'est ça. Donc là, on peut inscrire à partir... on peut déjà le faire pour les particuliers, en affaires. La nouveauté, c'est qu'en novembre, la livraison de la semaine prochaine, on va pouvoir inscrire une personne morale et activer ses codes en ligne. Donc, il n'y a aucun retour de documents papier. Premièrement, juste les principes de base sur lesquels on s'est appuyé. La loi cadre prévoit diverses règles quant à l'établissement d'un lien avec un document technologique. L'article 38 indique les résultats à atteindre en laissant le choix des moyens à utiliser, soit d'établir le lien par tout procédé ou par une combinaison de moyens. C'est quand même très large. L'article 40 prévoit que pour pouvoir confirmer l'identification de la personne, physique ou morale, on peut utiliser notamment une combinaison de moyens de quelque nature que ce soit, pourvu que les objectifs soient rencontrés. Donc, ça nous donnait une latitude quand même, avec la combinaison de moyens, on peut faire ce qu'on voulait, à condition que les résultats soient atteints. Je pense que c'est l'esprit de cette loi-là. Un coup qu'on apprend à travailler avec, bon, c'est démystifié un peu, là. La première fois que j'ai vu le projet de loi, j'étais un petit peu inquiète, là. Moi, j'ai eu la chance de naviguer avec le Code civil, les anciennes dispositions, l'avant-projet de loi, le projet de loi, la loi. Puis le projet s'est développé de 1999 à 2002, donc les belles années de l'avant-projet de loi puis du projet de loi. On a eu à naviguer à travers ça, mais finalement, le résultat, je pense qu'il nous a aidé beaucoup. Je pense que c'est une loi qui gagne à être connue, comme j'en ai. Non. Mais, bon. Donc, la demande d'inscription, procuration, c'est complété en ligne. L'identification, bon, ça peut vous intéresser. L'identification des personnes morales pour établir le lien. Donc là, le défi qu'on avait, c'est on voulait tout faire en ligne. Là, il n'y en avait plus de papier, ils ne voulaient plus de papier, c'était trop compliqué. Donc, on a dit, il faut trouver des moyens de reconnaître notre personne pour activer les codes en ligne. Il faut que ce soit aussi sécuritaire que si on reçoit le document papier signé. Moi, je pense que c'est même mieux parce que on s'entend que quand les documents signés rentrent, est-ce qu'on va aller chercher un document qui a déjà été signé pour vérifier la signature, ça? C'est peut-être pas aussi sécuritaire que les gens le pensent. Moi, je pense que, dans le fond, la signature a ses limites aussi, là, la signature manuscrite. Donc, on fait une corroboration pour établir le lien entre notre personne morale et notre demande d'inscription. Pour la reconnaître au moment de l'inscription, on a deux secrets qui sont transmis par la poste au siège d'entreprise. Donc, on va demander à la personne qui est représentant autorisé, parce qu'on dit que les deux conditions, il faut que la personne qui procède à la demande d'inscription soit un représentant d'office. Ceux que j'ai nommés tantôt, le président, le vice-président, secrétaire, trésorier. Nous, c'est des informations qu'on a dans notre banque à Revenu Québec, parce que notre banque est alimentée par le registraire des entreprises du Québec. Donc, on est en mesure, systémiquement, de faire le lien entre le rôle de la personne et l'information qu'on a dans notre banque. Donc, pour bénéficier d'une activation en ligne, il faut que la personne soit représentante d'office et qu'elle soit en mesure de nous fournir le numéro d'avis de cotisation. Donc, c'est une entreprise qu'on connaît déjà, elle a été cotisée dans nos systèmes. Une entreprise qui n'a jamais été cotisée ne pourra pas bénéficier de cette activation en ligne-là. Deuxième chose, c'est un numéro d'invitation. C'est un numéro qu'on envoie par la poste au siège, qui est un numéro qui est joint à une lettre de promotion. On leur dit, vous pouvez bénéficier d'une activation en ligne, voici votre numéro, et s'envoyer un représentant autorisé. Donc, c'est pas n'importe qui peut mettre la main là-dessus. C'est deux secrets, les règles, je ne sais pas si vous êtes familier avec les règles de la GSIN, là, l'architecture gouvernementale de la sécurité de l'information numérisée, là. Ça, c'est gouvernemental, en tout cas, la GSIN. Et les règles qu'on met, vous pouvez accéder à ce document-là sur le site du Conseil du Trésor. Ce document-là, est accessible. Je n'en parlerai pas si ce n'était pas accessible. On vient d'une phase revenue quand même. On saurait ce qu'on dit. Donc, c'est ça. C'est qu'on parle pour un niveau moyen parce que tous les niveaux, au niveau des services qui sont revenus, on est toujours en mode moyen pour ça. Là. On n'a jamais prétendu avoir un niveau élevé. À Revenu Québec, on n'a pas d'authentification de niveau élevé. Je ne pense pas qu'on ait le besoin non plus. Donc, c'est pour le niveau moyen, les règles de la GSIN prévoient que c'est deux secrets dont l'un est transmis par la poste. Nous, on est encore mieux. On envoie deux secrets par la poste, mais à des moments différents. C'est des envois synchrones. Donc, en vérifiant le rôle de la personne et les deux secrets, on est en mesure, en tout cas, de façon très raisonnable, de nous assurer que cette personne-là peut représenter l'entreprise et qui elle prétend qu'elle est. Pour le particulier en affaires, c'est un peu le même principe. On a la même chose que pour le particulier. On va vérifier deux secrets encore là. Les deux secrets, on va corroborer avec le numéro d'assurance sociale dans nos banques. Les deux secrets, c'est son numéro d'inscription de l'année précédente ou il y a 2 ans. Je pense qu'on peut jouer sur 2 ans. Ou l'année en cours et l'année Avant, c'est ça. Et son code d'accès annuel. Le code d'accès annuel, c'est le code qui est joint à l'étiquette quand vous recevez votre enveloppe de Revenu Québec pour vous dire voici votre code pour transmettre votre déclaration de revenu papier, mais l'étiquette pour mettre la déclaration de revenu papier, mais vous avez votre code d'accès aussi si vous, si vous voulez produire par Internet. Donc, ce code d'accès-là, dans les trois dernières années, compte tenu qu'on l'utilisait aussi parce que parti en affaires, c'est la même inscription, si on veut, chez particulier. Depuis à peu près 3 ans, on a modifié les conditions qui accompagnaient ce code-là, parce qu'avant, il était juste utilisé pour transmettre la déclaration de revenus. Maintenant, c'est devenu un secret. C'est un secret partagé avec notre clientèle. Donc, on a vraiment expliqué de long en large, si on veut, la confidentialité, le besoin de conserver cette information-là confidentielle. Que s'il donne ce code-là, ça peut être utilisé pour avoir un code permanent. S'il donne, il est responsable des transactions effectuées avec. Donc, on a vraiment, compte tenu qu'on changeait un peu la nature de ce code-là, qu'on l'utilisait à d'autres fins, on a vraiment bonifié les conditions d'utilisation qui accompagnaient ce code-là là, pour sensibiliser notre clientèle. Pour les sociétés de personnes, les personnes morales sans numéro d'invitation, c'est comme un parcours à cheval entre les deux. C'est que il ne peut pas bénéficier des secrets, il ne peut pas bénéficier de l'activation en ligne. Par contre, il peut être dispensé de transmettre des documents papier. C'est-à-dire que ce scénario-là, il va. On n'a pas deux secrets. Premièrement, on n'a pas les informations pour le moment pour les sociétés de personnes du registre des entreprises. C'est pas aussi fiable, compte tenu qu'ils n'ont pas toujours l'obligation d'être inscrits au REC. On a décidé d'alléger leur inscription. La façon que ça va se faire, c'est qu'il peut faire sa demande d'inscription en ligne, faire sa procuration en ligne, mais les codes vont être activés suite à une intervention d'un employé de Revenu Québec. Donc, l'employé va communiquer avec le représentant autorisé de la société ou du particulier en affaires, société ou de la personne morale qui n'avait pas de secret. Et ça va être activé quand même au téléphone au moment où il se parle, mais il y a une vérification de supplémentaire à faire. En ce qui concerne les conséquences d'avoir complété l'inscription puis les procurations, ce sont les mêmes que s'il avait signé les documents. C'est juste que le lien va être établi autrement. Ça, c'est un tableau qui résume, encore là, je n'ai pas le crédit de l'avoir fait. C'est un tableau qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Donc, représentant autorisé, oui, il continue, il peut. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je viens de vous dire. Là. Pour l'inscription du particulier, c'est comme le particulier en affaires. Le particulier, on avait des services qui étaient offerts, mais qui étaient. On n'avait pas besoin d'un niveau moyen aussi raffiné que celui qu'on a présentement. On avait la possibilité de faire des affaires électroniques avec notre particulier, mais on ne pouvait pas lui présenter l'information confidentielle. Donc, c'est là qu'on a, si on veut upgrader notre authentification, parce que là, on va lui demander la même chose pour particulier en affaires, son numéro d'identification, son code d'accès annuel, et on va activer en ligne. C'est un nuage, je ne sais pas si vous connaissez le service Click Secure, qui est le service gouvernemental. C'est l'ancien service québécois d'authentification gouvernementale, qui est un dossier piloté par le ministère des services gouvernementaux, avec le Centre des services partagés du Québec, avec nous, avec le Service Québec. Ce dossier-là, c'est que au début, je disais que Click Secure s'est appuyé sur notre fonction de vérification d'identité. C'est que le gouvernement a pour but, il veut que le citoyen n'ait qu'un seul code. Bien, on peut en avoir plus qu'un, mais ça c'est compliqué, mais qu'on puisse avoir juste un code pour accéder à chacun des services gouvernementaux. Donc, discussion politique et tout ça. Et les décisions qui ont été prises, parce que ça, c'est quelque chose qui est offert aux citoyens. Revenu Québec laisse tomber son authentification pour ces codes Click Revenu qui sont en place depuis 2004, je pense. Et on va forcer une conversion vers des codes Click Secure. Donc, le citoyen va pouvoir aller à la régie des rentes avec le même code qu'à Revenu Québec. Éventuellement à d'autres ministères, organismes, ministères d'éducation. Donc, c'est un gros projet qui est le gouvernement en ligne, accessible avec un seul code d'utilisateur, avec une authentification faite par le ministère des services gouvernementaux, mais encore à l'aide de notre fonction de vérification d'identité. Mais ça, à partir de novembre, la conversion des codes clic revenu va être obligatoire, mais pas pour les particuliers en affaires, parce qu'on n'a pas visé encore le volet affaires avec ce dossier-là. Le lien entre une transaction et son auteur, comme je le disais plus tôt, moi, je ne suis pas d'avis qu'un clic, qu'un code d'utilisateur mot de passe, ça équivaut à une signature. Je le vois souvent, c'est une théorie qui, il y a des théories qui s'affrontent, là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et la raison principale, c'est parce qu'on a une dissociation entre l'identité de la personne et le document. C'est que lorsqu'on lit la définition de signature, on dit que c'est apposé à un acte. Alors que lorsqu'on est avec un code d'utilisateur mot de passe, on initie une session qui nous permet de passer un document. Donc, mon authentification, c'est pour la session. C'est dissocié complètement du document. Donc, pour moi, l'établissement du lien entre le document et son auteur, contrairement à une signature, va se faire par une combinaison de moyens. Donc, ma combinaison de moyens, c'est que je vais avoir justement la session initiée avec un code d'utilisateur X mot de passe et tel document passé dans telle session. Et cette combinaison-là va me permettre d'établir le lien entre la personne et le document. Je ne suis pas capable de... En tout cas, il faudrait réussir à me convaincre que c'est l'équivalent d'une signature. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour l'établissement du lien entre l'entreprise et la transaction, encore là, c'est une combinaison de moyens. C'est qu'un coup qu'on a montré que notre code X qui appartient à telle entreprise a passé un document dans telle session, le lien entre le document qui est passé et le code d'utilisateur, ça fait par combinaison de moyens, mais mon lien entre mon entreprise et mon document, je vais devoir démontrer que ce code d'utilisateur-là appartient à cette entreprise-là et que le lien va être établi entre l'entreprise et la demande d'inscription et les conditions d'utilisation. Donc, à partir du moment où au début, quand je disais que le lien est établi entre la personne, entre l'entreprise et la demande d'inscription avec la combinaison de moyens de dire qu'on a corroboré des secrets, je pense qu'on est capable d'établir le lien, en tout cas raisonnablement, de dire, écoutez, il a accepté les conditions d'utilisation, on a demandé tel élément de corroboration, il est en mesure de nous répondre, c'était raisonnable de penser que c'était cette personne-là. Et à partir de ce moment-là, avec les conditions d'utilisation qu'il a acceptées, dans lesquelles c'est clair, c'est écrit que toute transaction effectuée avec un code d'utilisateur qui est lié à cette entreprise-là, c'est reconnu comme liant cette entreprise-là. Avec cette combinaison de moyens-là, on est en mesure d'aller chercher la responsabilité de l'entreprise pour une transaction X. Je passe la parole à Jacques pour la gestion des procurations. La gestion des procurations, c'est quelque chose qui on l'aborde assez superficiellement, c'est quelque chose qui est très, très, très complexe. Donc, si jamais vous voulez en reparler à la fin, là, je pense que c'est un morceau sur lequel Jacques pourrait développer à la période de questions.
Bon, la gestion des procurations. Le responsable des services électroniques, c'est la personne, plus ou moins, c'est le représentant de l'entreprise, OK, au niveau de tout ce qu'il appelle la gestion des procurations. Il y a à peu près tous les pouvoirs. OK, c'est lui qui gère les procurations internes, les procurations externes. Quand on parle de procurations internes, c'est les procurations qui sont accordées aux employés de l'entreprise. Mais par contre, un RSE, on peut donner une procuration externe. Une procuration externe, exemple, c'est quelqu'un qui est inscrit aux échanges électroniques. Le RSE peut donner une procuration à une firme de comptable, à quelqu'un d'une firme de comptable. OK, c'est quand on parle interne par rapport à externe. Comme je vous dis, il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir d'autoriser Revenu Québec à divulguer des renseignements confidentiels aux utilisateurs. Il a tous les pouvoirs de gestion des accès. Toutefois, il ne peut que suspendre ou réactiver les droits d'accès d'un autre RSE. C'est comme dans l'entreprise, au tout début, on avait donné la possibilité qu'il y ait uniquement deux RSE. On voulait limiter le nombre de RSE à deux. Par la suite, on s'est aperçu que pour certaines entreprises, il pouvait en avoir plus que deux. Donc, ce serait utile d'en avoir plus que deux. Au niveau des procurations au ministère du Revenu, on avait une autre contrainte aussi, c'est qu'on a une norme administrative qui fait qu'une procuration au ministère du Revenu n'est jamais effective plus que 3 ans. Okay? Le délai maximum pour une procuration est de 3 ans. Au niveau du RSE, étant donné son rôle bien particulier au niveau de l'entreprise, on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait pas, qui serait très lourd d'être obligé que l'entreprise renouvelle la procuration du RSE à tous les 3 ans, vu qu'il y a un rôle permanent, entre guillemets, dans l'entreprise. Ce qu'on a pensé, c'est que plus ou moins, au niveau des clics revenus, c'est qu'un RSE, la procuration du RSE est renouvelée de façon tacite, ou à tous les 36 mois. Ce qui veut dire, quand on dit de façon tacite, c'est que plus ou moins, c'est qu'il y a une information qui est envoyée, une communication écrite qui est envoyée au représentant d'office, au représentant autorisé, pour lui mentionner que le ministère du Revenu a procédé au renouvellement de la procuration de tel ou tel RSE. Okay? Et qu'il est de son devoir, plus ou moins, de nous aviser si telle n'est pas son intention. De plus, au niveau des conditions d'utilisation, on mentionne également que, ni plus ou moins, le RSE a tous les pouvoirs qu'il peut au niveau des accès, et que, ni plus ou moins, s'il y a des changements au niveau de l'entreprise, s'il y a des changements au niveau de la fonction, s'il veut nommer d'autres personnes, il est également du pouvoir. Dans les conditions d'utilisation, c'est très, très bien de préciser qu'il est de pouvoir et qu'il est le devoir de l'entreprise d'aviser le ministère du Revenu de tout changement. Aussi, il y a une autre fonction qui a été créée tout récemment, puis elle va être créée, elle n'est même pas créée dans les faits, là, je veux dire, c'est la livraison de novembre. Okay? C'est qu'on s'est aperçu aussi que, plus ou moins, étant donné que l'inscription à clic revenu, c'est tout le temps relié à un identifiant MRQ. Pour nous, c'est un numéro d'identification. Ça veut dire, exemple, si on prend un cas qui peut être, je vais donner un exemple, Samson Belair, c'est que dans le fond, c'est le numéro d'identification correspond au siège social de Samson Belair. Ça veut dire que ni plus ou moins, Samson Belair peut avoir 22 succursales, mais dans le fond, il peut avoir qu'une inscription pour le siège social, ce qui entraînait des problèmes au niveau de la notion de responsable des services électroniques. On a créé une nouvelle fonction qui est le RPE. Okay? La tâche de l'aspect consiste à gérer les procurations qui reçoivent un mandat et peut créer des procurations externes à partir des services qui connaissent. C'est ni plus ou moins, à la limite, c'est que, parce qu'on parle toujours souvent des firmes comptables, souvent reçoivent des procurations du mandat d'une entreprise pour faire leurs travaux. C'est que ni plus ou moins, souvent, ils vont nommer un RPE que lui, il va s'occuper des procurations. Même plus que ça, c'est que le RPE a un pouvoir de créer des procurations. Okay? Ça veut dire que le RPE qui représente le mandataire, là, va aller au niveau de clic revenu. Okay, le mandataire est inscrit, la firme de comptable est inscrite à clic revenu, mais le client, le mandant, l'entreprise n'est pas inscrit à clic revenu. Okay, mais il veut accéder aux renseignements du mandant. Fait que ni plus ou moins, le mandataire, Samson Belair, va compléter une procuration au niveau du système. Okay, le RPE a le pouvoir de créer une procuration. La procuration va être créée, mais par contre, cette procuration-là ne sera pas activée tant et aussi longtemps que, ni plus ou moins, qu'elle n'aura pas été signée par le mandant et reçue au ministère du Revenu. Mais ça, là, ça paraît banal, là, mais c'est quelque chose pour les firmes de comptables qui va être très apprécié, là, c'est suite à des échanges qu'on avait avec eux, qui leur facilite beaucoup le travail. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le RPE existe, les procurations sont créées dans la majorité des cas lorsque l'entreprise n'est pas inscrite. Puis la situation se fait toujours sur réception du document signé par toute procuration au ministère du Revenu et signé par le mandant. L'utilisateur, tant qu'elle lui est une personne qui détient une procuration pour accéder aux informations relatives à une entreprise, dans le domaine au niveau de clic revenu, une procuration, on a des termes procuration générale, procuration restreinte. Procuration générale, le RSE, entre autres, a une procuration générale. C'est le RSE pour pouvoir donner des accès à l'ensemble, à l'ensemble des renseignements d'entreprise. Mais par contre, une procuration générale, en tant que telle, signifie que c'est une personne qui a accès à l'ensemble des renseignements fiscaux de l'entreprise. Tandis qu'une procuration restreinte, c'est une personne qui a accès à plus ou moins à un ou plusieurs renseignements de l'entreprise. Il y a un beau tableau, là, comme Patricia disait tantôt. Moi non plus, je ne sais pas où il l'a fait, là. Mais ça explique, que vous regardez, ça explique vraiment, là, c'est le représentant autorisé qui crée le RSE. Par la suite, le RSE, lui, il y a la gestion des dossiers d'utilisateurs et des procurations internes. Il y a la gestion des procurations externes. C'est tout le RSE qu'on nous disait tantôt de pouvoir au niveau des gestions. Le RPE peut créer des procurations. Par contre, on voit très bien qu'il y a un formulaire qu'on appelle, nous, chez nous, le MRW69, là, qui doit être imprimé, qui doit être signé par le mandant et retourné à Revenu Québec. Par la suite, Revenu Québec active la procuration. Puis, le mandataire peut accéder via l'utilisateur, peut accéder via son code d'accès et mot de passe. La conservation des documents. On a deux types de conservation. On a l'empreinte numérique et l'image de curé de réception. Dès la réception des documents et immédiatement après son déchiffrement, L'empreinte numérique des données qu'il contient est générée et conservée. Ce moyen permet d'assurer l'intégrité des données à partir de ce moment et par la suite pour la durée de son cycle de vie. En ce qui a trait à l'image d'accusé de réception, une image d'accusé de réception qui contient toutes les données transmises est conservée pour fin de preuve. Une empreinte numérique est générée, conservée afin de préserver l'intégrité de l'information. Ce document, dans l'image de l'accusé de réception, contient trois choses. Il contient le numéro de référence, il contient la date, l'heure, la minute et la seconde de la transmission, ainsi que le nom et le prénom de l'utilisateur. En ce qui a trait au délai de conservation en tant que tel, nous, au ministère de Revenus, c'est notre référence, c'est qu'on applique le même délai de conservation que que prévoit le calendrier de conservation en vigueur à Revenu Québec. On a pensé que cette façon de procéder, c'était ni plus ou moins pour assurer une certaine équité entre le monde traditionnel et le monde électronique. Journalisation et profilage. OK. Les traces sont conservées afin de répondre à des préoccupations légales et de contrôle a posteriori associées à leur journalisation et la conservation de documents. Les traces en tant que telles sont conservées par le service de sécurité informatique au ministère du Revenu, mais par contre, leur exploitation est restreinte et réservée à la direction de la vérification interne et des enquêtes. Le troisième point, ce qui concerne les traces utilisées afin de profilage, ça, c'est une préoccupation très claire, parce que nous, je vais vous en parler un petit peu dans ma conclusion, là, mais ce projet-là a été suivi du début à la fin par la Commission d'accès à l'information. Ça, c'était une préoccupation très grande de la Commission d'accès à l'information à l'accès de ni plus ou moins que les traces. Okay? Parce que c'est sûr qu'on conserve les traces, comme je l'ai dit tantôt, pour des fins légales, là, puis contrôle de posterie. Mais en aucun moment, c'était une préoccupation très grande de la CAI. Ces traces-là devaient être conservées pour tracer des profils personnalisés d'un internaute. Okay? Puis ça, je pense que c'était une préoccupation très grande. Puis même nous, au ministère du Revenu, là, on a tout fait pour que ce ne soit pas le cas. Alors, on a tout fait pour réaliser ces préoccupations de la CAI. Les pages journalisées, bien entendu, les pages informationnelles ne sont pas journalisées en aucun moment. Okay. Au début, par la suite, on s'est aperçu que ça représentait un volume considérable d'informations. Okay, il y a déjà des pages au tout début, là, après un certain moment, on s'est dit certaines pages qu'on a décidé de ne plus journaliser, comme les pages d'aide, les pages de comment précéder, puis les pages de prévisualisation de l'inscription, etc. On a décidé qu'il n'était pas utile de les conserver. Mais nonobstant ce fait-là, on s'aperçoit que c'est encore une quantité très, 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 très grande. Bon, on n'a jamais fait une étude exhaustive à savoir quelles sont les pages vraiment qu'on devrait journaliser. Mais je peux vous dire qu'éventuellement, on va regarder ce dossier-là parce que ça représente une masse très importante.
Dernier petit bout pour moi.
Je vais te parler un petit peu des paiements électroniques. C'est sûr, je ne parlerai pas des paiements, ce qu'on appelle grand public, là, qui sont les paiements qui permettent d'aller sur le site, par exemple, de Desjardins, d'aller payer un solde d'impôt, des choses comme ça. C'est du paiement grand public, puis ce n'est pas dans les services publics revenus. On a trois modes de paiement électronique. Le troisième, je ne peux pas vraiment le qualifier d'électronique, même si on l'appelle paiement électronique chez nous, là. Premièrement, il y a le paiement en ligne. Ce que c'est une redirection sur le site de l'institution financière avec certaines informations qui permettent de compléter le bordereau de paiement. Donc, dans les faits, un, il faut être inscrit avec les revenus. Deux, il faut être inscrit au service de paiement de facture de l'institution financière. Pour l'instant, on a Banque nationale et Desjardins. Ce que ça permet, c'est qu'à un moment donné, vous faites une déclaration en taxe, c'est ouvert juste aux entreprises, ça. Vous faites une déclaration en taxe, vous avez un montant, je ne sais pas, 200 $ à payer, vous voulez payer, donc vous consentez à être redirigé sur le site d'accéder à faire, par exemple. Les informations qui suivent, bon, c'est le montant, la date de production, un numéro spécifique qui permet de retracer le dossier. Et en arrivant à la porte du site de Desjardins, vous devez vous réauthentifier avec votre code, mais Desjardins. Donc, dans le fond, c'est un service qu'on rend à la clientèle de faire partir avec les informations pour un peu alléger ce qu'il y a à compléter chez Desjardins. Ça, c'est un premier genre de paiement. On a le débit préautorisé. Ça, c'est un peu plus complexe. C'est un transfert électronique de fonds. On doit être inscrit et à Clic Revenu et avoir complété la demande d'autorisation pour le débit préautorisé avec un spécimen de chèque c'est reçu papier. C'est basé, je l'ai rédigé pour qu'il soit conforme aux règles de l'Association canadienne de paiement, compte tenu que c'est géré par l'ACP. Ce document-là doit être tourné papier, comme je disais, avec un spécimen de chèque. Concernant au débit préautorisé qu'on voit, c'est les mêmes règles que, par exemple, si vous êtes inscrit au Nautilus, vous complétez une demande de débit préautorisé pour qu'il passe le 15 du mois tel montant. La différence, c'est que c'est pas un montant fixe, c'est un montant variable et c'est sporadique, c'est pas à date fixe. Donc, c'est sur un ordre de paiement que vous donnez, que l'entreprise donne, et cet ordre de paiement-là, ben, c'est le montant qui peut être un paiement partiel ou un paiement complet de la déclaration, par exemple, que vous venez de faire ou des revenus à la source. Et ce montant-là, vous pouvez le post-dater. La petite limite, si on veut, ça, c'est à faire par... on peut être dans 8 institutions financières. Il y a un genre d'agent concentrateur, je pense que c'est la Banque nationale. Je ne vais pas dire de niaiserie, là, mais dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que vous êtes inscrit, vous avez un paiement à faire. Donc, le ministère accumule les fichiers. Ça part peut-être une fois par jour au ministère des Finances par un canal connu là, qui est le TEHV, je pense. Et ça, ça part et c'est envoyé à un agent concentrateur qui est la Banque nationale. Et le lendemain ou le jour même, c'est transmis à chacune des institutions financières. Donc, c'est on demande un délai de 2 jours ouvrables pour traiter tout ça avant que le compte des finances soit crédité et que la confirmation de paiement revienne par le canal EDI habituel pour les confirmations de paiement Revenu Québec. Donc, la limite de ce service-là, mais qui est souvent rencontrée dans des paiements par Internet, c'est que la personne doit prévoir son paiement 2 jours avant sa date statutaire de production. C'est la limite qu'on a, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Pour l'instant, on demande de renvoyer le formulaire papier. On essaie de faire avancer un peu, on pose des questions, en tout cas, à l'Association canadienne de paiement, parce que dans les règles, la règle H1, notamment, de l'Association canadienne de paiement, on prévoit que ce formulaire-là peut être signé avec une signature électronique qui n'est pas très fréquente, le gouvernement en a pas encore, ou signé manuscrit. Là. Donc, le problème qu'on a, c'est que on voudrait faire reconnaître, par exemple, notre inscription à titre revenu comme étant une authentification suffisante pour pouvoir transmettre ce formulaire-là. Mais encore là, il y a beaucoup de discussions parce que faire bouger les banques, hein, c'est au niveau fédéral, il y a beaucoup d'institutions financières impliquées, il y a beaucoup de membres de la CP, ce n'est pas des réunions qui sont fréquentes, donc c'est sûr qu'on aimerait ça éventuellement que la norme, la règle H1 soit modifiée pour permettre une authentification électronique sans faire référence spécifiquement à une signature électronique. Le troisième, ben, c'est un bordereau de paiement. C'est qu'on imprime le bordereau de paiement. Puis la limite du bordereau de paiement, c'est que c'est pas de la personne, lorsqu'elle l'imprime chez elle, c'est pas de l'encre avec la technologie MICR, donc c'est pas de l'encre magnétique. Ça veut dire que la personne va pouvoir utiliser le bordereau de paiement pour pouvoir joindre un chèque, passer ça à Revenu Québec ou venir au comptoir de Revenu Québec pour payer, mais ne pourra pas utiliser le bordereau de paiement dans une institution financière parce que les institutions financières exigent l'encre magnétique. Je n'avais pas... Les obligations de la loi CARD, on a plusieurs, on en a encore plusieurs. J'ai choisi l'article 35 pour... concrétiser un peu cette loi-là là, dans la pratique de tous les jours. L'article 35, c'est l'article, je ne verrai pas d'un bout à l'autre, mais c'est l'article qui dit que si tu mets quelque chose en ligne, arrange-toi pour prévenir les erreurs, puis si quelqu'un en fait, arrange-toi pour que tu sois capable de les corriger. C'est ça que ça veut dire. Donc, comment est-ce qu'en pratique, on a mis ça en place? Là, comment est-ce qu'on répond à cette obligation-là? Premièrement, on n'a pas encore développé des déclarations amendées. C'est-à-dire que si vous faites une déclaration de revenus, que vous vous trompez, vous devez produire une déclaration amendée, mais sur support papier. On n'a pas encore, parce que c'est aussi compliqué de gérer les amendés que le produit du début. Là. Pour l'instant, on n'a pas investi dans le développement pour gérer les productions amendées. Donc, on y va beaucoup en prévention. Chacun des services a des pages comment procéder. Dans ces pages-là, avant de commencer un service, on va expliquer les renseignements, premièrement, comment fonctionne le service, les différentes étapes qu'il va avoir à franchir, de quels renseignements il va avoir besoin pour l'utiliser. On a toujours une étape de vérification des données. Avant de transmettre, on fait toujours une vérification. On lui dit, tu veux-tu corriger ou tu veux transmettre? Donc, la personne a une dernière chance de voir ce qu'elle s'apprête à transmettre. On a beaucoup de pages d'aide en ligne. Toutes les pages ont de l'aide en ligne. Donc, à toutes les étapes, la personne peut se référer à l'aide pour comprendre qu'est-ce qu'on lui demande, où est-ce qu'on va en venir, à quoi servent les boutons. Une autre chose qu'on fait, c'est que, dans le fond, on commence à le faire, on essaie de le faire de plus en plus dans nos services, c'est qu'on va désactiver certains boutons par défaut et la touche Enter. Par exemple, quand on arrive pour accepter les conditions d'utilisation, souvent les gens cliquent hein, par réflexe puis continuent puis ne lisent pas. Les conditions d'utilisation, on ne peut pas faire ça chez nous. Les conditions d'utilisation, il faut que tu prennes le temps, tu ne peux pas faire j'accepte, là. Faut que tu prennes le temps d'aller cocher une case parce que tes boutons sont désactivés. Tu prends le temps d'aller cocher une case, j'ai lu les conditions d'utilisation, je les ai comprises et je m'engage à les respecter. En cochant ça, ça va activer nos deux boutons, j'accepte, je refuse. Le principe a été repris dans le service québécois, dans le Click Secure. C'est un peu le même principe, sauf qu'on va, au lieu d'aller cocher une case avant d'accepter les conditions d'utilisation, on va demander de ressaisir le mot de passe qui est choisi à l'origine. Donc, c'est un moyen de nous assurer qu'on a l'attention d'internautes. La touche Enter, dans certains cas, c'est désactivé aussi pour pas que ça part pas que la personne ait vraiment en vue. Puis, après, pour réparer les erreurs, ben, on reproduit dans plusieurs de nos pages le numéro de téléphone. La personne, souvent, on est comme un peu démunis, là. On s'aperçoit qu'on a envoyé quelque chose, que là, c'était pas ça qu'on voulait, c'était pas ce montant-là qu'on voulait payer. Donc, on a dans pas mal toutes nos pages un numéro de téléphone ou appeler en cas de panique, là, comment régulariser la situation, là. Donc, c'est des moyens qu'on a mis en place pour essayer de respecter les obligations de l'article 35. Donc, je vais laisser Jacques compléter avec les bonnes pratiques et la conclusion.
Bon, au niveau des bonnes pratiques, sûrement qu'il y en a plusieurs que vous connaissez. Entre autres, au niveau du dernier accès, c'est qu'on affiche toujours le dernier accès. C'est que le dernier moment que la personne a accédé à une page transactionnelle avec son code d'utilisateur mot de passe, ça lui permet de s'apercevoir éventuellement s'il y a quelqu'un qui a accédé, qui a utilisé son code d'utilisateur mot de passe. Au niveau de la désactivation du code d'utilisateur, ça se fait après 5 tentatives. Au niveau de l'envoi des secrets, si on a parlé un petit peu tantôt, l'envoi des secrets sont toujours envoyés de façon asynchrone. Okay? Ils ne sont jamais envoyés au même moment. En ce qui a trait au code d'accès, okay, le code d'accès, règle générale, le code d'accès est envoyé par la poste. Mais par contre, il y a une facilité qu'on donne au niveau du code d'accès, c'est que le code d'accès peut être transmis via un faux code d'accès. Okay, on peut le transmettre via un faux code d'accès. Mais par contre, en ce qui a trait au niveau d'avis de cotisation, le numéro d'avis de cotisation est toujours transmis par la poste à l'adresse connue du contribuable dans nos banques. Plus que ça, parce que nous, on a changé nos manières de faire, comme disait Patricia tantôt, si ce n'est qu'au niveau de l'information qu'on donne au code d'accès, au regard du code d'accès, même au niveau de nos pratiques à l'intérieur du ministère. Avant, on pouvait envoyer, quelqu'un nous appelait et nous demandait son numéro d'avis de cotisation, on le donnait par téléphone. Mais là, depuis que nous, plus ou moins, qu'on considère ces éléments-là comme secrets, puis plus particulièrement encore le numéro d'avis de cotisation, c'est que, plus ou moins, ce numéro-là n'est jamais transmis par la poste. Il n'y a personne qui peut appeler au ministère du Revenu pour dire, même s'il s'identifie comme contribuable et donne toutes les informations reliées à son identité, il ne le recevra jamais par téléphone, ça va être toujours transmis par la poste à son domicile. Puis l'avis de cotisation en tant que tel, même chose pour le mandataire, là, l'avis de cotisation va être expédié au contribuable à son adresse de domicile. L'autre élément secret qui est le numéro d'invitation que tantôt qu'on parlait pour les entreprises, là, pour pouvoir activer en ligne une inscription d'une entreprise, il y a une durée de conservation de 120 jours. OK, puis ça, on le fait dans le but de préserver l'aspect confidentiel de ce numéro-là aussi. On a parlé d'activation en ligne. Tantôt, encore une fois, il y avait deux méthodes, une en ligne, une par l'envoi de documents. Au niveau d'activation en ligne, tout est fait via, comme on a dit tantôt, ça se fait en ligne. Mais par contre, pour des mesures pas de sécurité, mais pour, étant donné que c'est un processus nouveau, tout ça, on a préféré quand même envoyer une lettre de confirmation. À chaque fois qu'il y a une inscription en ligne, il y a une lettre qui est envoyée, une lettre de confirmation qui est envoyée au représentant autorisé, celui qui a procédé à l'inscription, à l'adresse de l'entreprise, pour confirmer son inscription. Puis si jamais il y avait une anomalie quelconque, la personne peut intervenir. Une des choses aussi, de générer le code utilisateur ou non, parce que nous, au début, on pensait que c'était la meilleure façon de procéder, là, c'est que, comparativement à Click Secure, c'est que nous, le code utilisateur, c'est un code qui est généré par le système. OK? Puis on s'est aperçu bien. Puis ça, c'est les gens de la sécurité informatique, là, c'est à leur désir, là. Puis on s'est aperçu avec le temps que le code qui est généré par le système, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à retenir. Je pense à la disposition, puis il y a des lettres, puis il y a des chiffres, puis je veux dire, il n'y a pas personne. Là, quand je l'ai vu un pour la première fois, là, j'ai dit, c'est sûr qu'on peut pas le retenir par cœur. Fait que si on parle en termes de protection dans les domaines confidentiels, s'il est généré par le système, c'est peut-être plus fiable que si la personne le choisit. Mais par contre, le fait qu'il soit généré par le système, elle va nécessairement l'inscrire à quelque part. Fait que ça a certaines faiblesses. Par contre, si le code est généré par la personne, mais souvent c'est plus facile, c'est le même code qu'ils utilisent pour tout le monde. En bout de piste, c'est que nous, on sait qu'on le fait de telle manière, on sait que plus Click Secure procède d'une autre manière. Et pour nous, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre en tant que tel. La question rappel, nous, au ministère de Revenus, on a statué que la question rappel, pour avoir son mot de passe, là. Une question rappel qu'on voit souvent dans certains sites, là, le nom de la mère, le nom du chien, puis un ensemble des questions, soit que les questions sont pré-identifiées ou bien choisies. Nous, on n'a pas été dans ce sens-là parce qu'on trouvait que ce n'était pas suffisamment fort. Le seul moyen pour avoir son mot de passe, c'est de procéder à une nouvelle vérification d'identité, au même titre que lorsque la personne s'inscrit pour la première fois. Bon, la conclusion, c'est que, bon, première des choses que j'aimerais mentionner, je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est que, au ministère du Revenu, on avait une préoccupation très grande au niveau de la protection des renseignements confidentiels pour différentes raisons, là, mais c'est quelque chose qui est très important au ministère du Revenu. On n'a pas eu le choix au tout début, parce que c'est une exigence de la loi aussi, c'est qu'on n'a pas eu le choix lorsqu'on a implanté les services électroniques. À l'époque, la loi nous obligeait à aller au niveau de la commission d'accès pour faire valider notre contrat. OK, c'est vraiment un contrat, de faire valider le contrat, parce que ça donnait accès à des renseignements externes. Donc, ça donnait accès. Donc, c'est une exigence légale, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais par contre, lorsqu'on a fait valider le contrat des échanges électroniques, la CAG nous a dit qu'elle était intéressée à suivre l'évolution de ce projet-là, à suivre l'ensemble du projet. C'est qu'ils ont fait de l'année 2000 à 2005. Au ministère du Revenu, on considère qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase 1 et la phase 2. La phase 1 qui s'est terminée fin 2002, puis la phase 4, la phase 1 en 2002, la phase 4 la phase 2 en 2004. Puis il y a eu un suivi par la CAI. Il y a eu un rapport de suivi qui a été effectué par la CAI en mai 2003 pour la phase 1 et en février 2005 pour la phase 2. Puis la conclusion est à la même. Là, dans les deux rapports, là, c'est un document qui est accessible sur Internet même, si jamais ça vous intéresse. Là. C'est que la conclusion, c'est ça, ça se limite à ça. C'est de dire que les mesures mises en place par Revenu Québec face aux différents enjeux de PRP démontrent un contrôle satisfaisant. Okay? Dans le sens qu'ils trouvaient qu'on avait pris des mesures raisonnables et que dans le fond, il n'y avait rien, ils autorisaient la poursuite du projet. Ça, c'est au niveau de la commission d'accès. Par contre, j'ai certaines émotions au niveau de la conclusion que j'aimerais vous faire part, qu'on considère qui est important, entre autres, dans ce projet-là, c'est que, OK, moi je vois ça parce que je travaille au niveau de la PRP, c'est qu'il y a plus ou moins la loi sur l'accès, il y a une ambivalence, il y a une dualité, la loi sur l'accès, c'est que, puis à Revenu Québec, on va plus qu'ailleurs parce qu'on a la loi sur l'accès, puis la loi sur le ministère du Revenu. C'est que dans le fond, on doit plus ou moins protéger les renseignements, puis on doit les rendre accessibles. Okay. Puis moi, je pense que le dossier, le projet des services électroniques Click Revue, c'est un peu ça. Là. C'est toute la problématique reliée à l'accès versus la protection. Parce que si on parle des entreprises, il y a plusieurs entreprises au Québec, puis pour eux, c'est un avantage d'avoir accès à leurs renseignements de façon électronique. Mais par contre, si tu es trop exigeant au niveau... Pourquoi qu'éventuellement, au tout début, on demandait aux gens de compléter papier avec la signature, c'était la meilleure solution, mais je veux dire, on s'est aperçu que c'est pas nécessairement ça, l'entreprise. L'entreprise voulait avoir accès encore plus rapidement à leurs renseignements. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un bel exemple, OK? Qu'il y ait plus ou moins on a travaillé fort, c'est un bel exemple, nous, pour on considère qu'on a réalisé quelque chose de très intéressant au niveau de la loi sur l'accès, dans le sens, comme je vous dis, de vérifier la protection versus l'accès. C'est un projet innovateur aussi au niveau dont les risques ont été judicieusement évalués en matière de preuves et de PRC, tout en assurant la conformité légale du projet. Je pense qu'encore aujourd'hui, comment je vais expliquer ça? la pratique le démontre, parce que tantôt, on a parlé de la régie des rampes qui a utilisé notre fonction de vérification d'identité. On parle de Click Secure, qui n'est plus ou moins utilisé notre fonction de vérification d'identité. Mais même tantôt que lorsqu'on disait qu'il n'est plus ou moins que notre code Click Revenu devra nécessairement échanger via le code Click Secure au mois de novembre, le 19 novembre, c'est que le ministère du Revenu est encore très présent, parce que dans le fond, Click Secure, pour pouvoir attribuer un code d'utilisateur, doit nécessairement venir chez nous pour procéder à la vérification de santé. Je ne sais pas si vous comprenez, même si c'est Click Secure qui donne le code d'utilisateur, je dis, ils viennent chez nous, c'est nous qui validons l'identité de la personne dans nos banques. Okay? Ça fait qu'on est, quand même, on est encore très présent au niveau. C'est pour ça que ça veut dire que le gouvernement a trouvé que c'est un projet qui est intéressant. Ça, ce qui est plus personnel à nous, à Revenu Québec, c'est que c'est un projet, puis de plus en plus dans la fonction publique, on accorde une importance à ça. C'est un projet qui a permis de créer une synergie entre les différents domaines d'expertise, tels que le juridique, l'organisationnel, la gestion de projet, la gestion des risques, la gestion de la sécurité, la gestion documentaire et le développement technologique. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, il y a eu, au niveau du gouvernement, il y a eu un manuel qui avait à peu près 500 pages, là, c'était les bonnes pratiques en développement système face à la PRP. Okay? Dans ça, la grosse problématique qu'il y avait dans les organisations, ni plus ou moins, c'était d'un projet de développement informatique, c'était de faire participer les gens. Ni plus ou moins, avant, c'est que dans le fond, tu développes le projet, puis après ça, tu allais voir les gens du légal, les gens de PRP, puis les gens de la preuve, ces choses-là. Puis là, ben, on leur disait que ça ne fonctionnait pas, mais on venait tout ça en bout de processus. Mais nous, on considère que c'est un point qui a été très important au ministère des Revenus, c'est que tout l'aspect légal, on a suivi, comme disait Patricia, elle est là depuis 1979, Patricia, là. Mais ça, c'est une réussite gouvernementale dans ce sens-là, c'est qu'on a l'aspect légal, puis on l'a suivi du début à la fin, puis on a joué une part très, très active, puis à la limite, c'est ça qui a fait la réussite du projet. Quand on parle de légal, on parle de PRP, parce que dans le fond, PRP, c'est évaluation du risque, tout ça. Donc, c'était quelque chose de très, très fascinant, très intéressant. Puis, je pense que c'est le seul moyen de développer un système qui a moindrement de renseignements personnels de la façon qu'on a fait. Dernier point, c'est que l'utilisation par la Régie des rentes, OK, la Régie des rentes et le ministère des services gouvernementaux, de Click Secure, de la fonction de vérification d'identité de Revenu Québec, c'est un exemple de partenariat d'affaires avec d'autres ministères et organismes. Comme je disais tantôt, je veux dire, même si, dans le fond, à partir du 19 novembre, qu'on doit, pour le particulier, en tout cas, pour le particulier, c'est le code d'utilisateur Click Secure doit être changé pour Click Revenu doit être changé pour Click Secure. Nous, on est encore en train de faire des ententes, parce que nous, plus ou moins, c'est ça que je vous dis, je veux dire, on va utiliser les services de Click Secure, puis en même temps, on va agir en tant qu'agent vérificateur d'identité pour que c'est vraiment des beaux exemples de partenariat avec d'autres ministères et organismes. C'est la fin.
Alors, merci. Écoutez, ce que je propose peut-être, si vous êtes d'accord, on pourrait enchaîner tout de suite avec une période de questions et en même temps, ceux qui le souhaitent, si la soif vous tenaille, ben, servez-vous en même temps sans faire trop de bruit. Je pense que ça va nous permettre peut-être de mieux condenser. J'aurais peur de créer une interruption et de briser le rythme, le momentum que vous avez si admirablement créé. Alors, je ne sais pas si certaines personnes souhaitent poser des questions ou intervenir.
Juste question très rapide, maintenant. Est-ce que c'est votre position personnelle, le fait que la signature n'équivale pas, ou c'est la position du ministère?
C'est pas la position. Écoutez, moi, je ne prétends pas avoir la position du gouvernement. Oui, c'est la position du ministère parce que c'est moi qui la donne, c'est mon dossier si on veut, mais c'est aussi attaché avec mes gestionnaires. Pour en avoir discuté avec plusieurs juristes, parce que j'ai la chance d'être sur un comité avec beaucoup de juristes des ministères et organismes pour voir un peu comment on peut rédiger la loi d'application pour la loi cadre. Pour en avoir discuté souvent, je pense que c'est une tangente qui se
comprend, de ne pas prétendre que c'est une signature parce qu'il manque un élément. À mon avis, à moi, il manque un élément. Et oui, on le voit souvent. Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait me convaincre du contraire? Peut-être, je ne sais pas.
On
ne
souhaite pas.
Ben, en tout cas, mais moi, là, je pense que moi, mon client, c'est le ministère du Revenu. Donc, ma job, c'est de le protéger du mieux que je peux. Quand on est arrivé pour évaluer en 99-2000, il n'y avait pas de signature électronique disponible. On ne voulait pas investir dans une signature électronique. Il n'y avait pas d'agent certificateur d'identité. Alors, le moyen qui a été retenu, c'est le code d'utilisateur mot de passe, un niveau moyen d'authentification. À ce moment-là, on s'est arrangé pour que on n'ait jamais à prendre la décision qu'un clic, c'est une signature. On s'est toujours débrouillé pour pas être obligé de faire référence à un document signé. Notre loi nous le permettait. Donc, le fait de si un jour une disposition législative vient dire un clic ou un code d'utilisateur mot de passe équivaut à une signature, bon, peut-être qu'on embarquera, mais c'est vraiment une question, oui, personnelle, parce que je pense qu'en interprétant la loi, moi, ma position, c'est de dire que non, c'est pas une signature. Et par prudence pour le client, non, c'est pas une signature. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, il y a un beau débat là-dessus.
En fait, c'est une proposition. Donc, si, par exemple, on établit une étape séparée pour le signature électronique qui possède plusieurs étapes spécifiques mais avec plusieurs démarches. Mais à la fin, par exemple, l'utilisateur va dire et on va exprimer son consentement pour le signature électronique. Mais plus tard, par exemple, vous pouvez donner un mot de passe. Mais vous pouvez envoyer cette mot de passe par la poste ou à son adresse ou à son courrier électronique. Donc, à la fin de chaque transaction, l'utilisateur peut utiliser cette mot de passe comme signature électronique. Pas avec un clic.
Mais moi, la signature, c'est parce que moi, c'est pas à ce niveau-là que j'accroche au niveau de la signature électronique, parce que notre utilisateur a un code d'utilisateur mot de passe pour initier une session, mais c'est que, pour moi, la définition de signature, c'est que il y a un caractère indissociable entre le document et la signature, et pour pouvoir utiliser ce document-là en preuve, il faut être capable de démontrer que l'intégrité de ce lien-là a été maintenue.
Donc, je vous comprends très bien, mais par exemple, dans la web page ou dans le système, l'utilisateur va exprimer son consentement dans une étape séparée, qui comprend plusieurs étapes, avec une signature électronique. Donc, vous allez donner une note de passe, un chiffre ou quelque chose. Donc, l'utilisateur va utiliser à la fin de chaque transaction cette mot de passe. Mais
que ça reste associé au document?
Ce sera toujours d'entre vous et l'utilisateur, mais vous allez transmettre cette mot de passe, par exemple, en une signature électronique, à lui par le poste, depuis le confidentiel ou par l'électronique.
Mais le fédéral fonctionne. Le fédéral utilise ce qu'on appelle le e-pass. Le e-pass, il y a vraiment un certificat. Nous autres, on n'a pas de certificat. Qu'on est notre propre agent certificateur d'identité et tout ça.
C'est juste proposition.
Oui, non, mais c'est correct, je trouve ça bien. On est là pour apprendre, nous autres. C'est ça, mais je ne peux pas partir de l'université sans avoir appris quelque chose. Voilà. Mais c'est ça, c'est que comme le fédéral utilise le e-pass, c'est qu'ils vont s'inscrire en ligne, après ça, ils vont envoyer une partie du mot de passe par la poste, puis ils vont avoir une partie en ligne, puis mais les gens font de l'urticaire à s'inscrire.
Je voudrais intervenir parce que est-ce que vous avez une aussi procédure en papier classique traditionnelle par rapport à clic revenu?
L'inscription à clic revenu traditionnelle, de la manière...
C'est séparément parce que...
On ne peut pas s'inscrire, aller chercher un formulaire au bureau et s'inscrire puis obtenir des codes.
À dire la vérité, si j'étais une entreprise, après vous avez écouté, j'aurais peur de consulter parce que c'est avec mot de passe, utilisateur, donc ça ne donne pas beaucoup de sécurité parce que vous ne croyez pas vous-même
Non, je crois à mon système. Je ne crois pas que mes documents sont signés et ma loi ne m'oblige pas à les signer. Moi, là, au ministère du Revenu, là, j'ai le bras long. Donc, ben pas moi, moi, je veux dire Revenu Québec. Pas moi. Non, mais Revenu Québec, OK. Souvent, on se fait poser la question, j'envoie ma déclaration de revenus, mettons, ou je ne l'envoie pas. Puis je vous dis, mettons, je l'envoie, puis il y a une fausse déclaration dedans, puis je vous dis, ben, c'est pas moi. Comment vous faites? Elle n'est pas signée. Nous autres, là, si vous envoyez votre déclaration de revenus, puis vous prétendez que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, vous êtes en omission de produire. Ça coûte aussi cher qu'une fausse déclaration. Fait que vous êtes autant dans le trouble. Et ce que vous envoyez, par exemple, si vous prétendez ne pas l'avoir envoyé, qu'on ne l'a pas reçu, on a des beaux pouvoirs dans la loi aussi qui viennent dire que, sans égard aux documents qui ont été produits, on a le pouvoir de redemander les mêmes documents. Donc, il n'y a pas... On est en mesure de bien faire respecter les obligations fiscales. On a beaucoup de dispositions qui... Mais par contre,
le plus bel exemple, Patricia, je pense, c'est le numéro... Quand, là, tantôt, on a parlé de l'inscription au fichier de Revenu Québec. C'est que dans le fond, ça, c'est un exemple que l'entreprise peut s'inscrire de façon papier, de façon officielle, avec l'ensemble. C'est un document qui contient...
Le numéro TVQ.
Oui, c'est ça. Oh, oui. C'est un formulaire qui contient une dizaine de pages, OK? Mais par contre, il peut le faire de façon électronique, par corroboration d'éléments pour la personne qui l'a fait, là. Mais je veux dire, le document va être reçu de façon électronique au ministère du Revenu, sans papier. Puis je veux dire, ça va avoir le même effet, ni plus ou moins, que celui qui l'a transmis papier.
Il y a le choix. C'est qu'on a toujours la voie traditionnelle.
C'est que je comprends aussi, avec votre système, le clic est venu, on doit répéter plusieurs sections encore, envoyer des papiers, puis demander des papiers, donc confirmation. Ça prend encore du temps. Je ne sais pas, le système prend le temps.
C'est que toutes les obligations fiscales peuvent être faites par des moyens traditionnels. Les entreprises qui en parlent peuvent continuer à remplir toutes leurs obligations fiscales avec un moyen traditionnel. Ils peuvent recevoir leur formulaire papier, transmettre leur déclaration sur support papier. Et ils peuvent compléter plusieurs obligations fiscales par Internet aussi. L'inscription à Clic Revenu, c'est pas compliqué. C'est qu'on demande 2-3 éléments. Et c'est des éléments quand même assez punchés. On s'entend là, que c'est des éléments, c'est pas n'importe qui. Moi, si je vole un portefeuille, là, ce qui n'est pas le cas, je ne sais pas. Mais mettons que j'en vole un, là, je peux pas avec le... C'est rare qu'on se promène avec notre ligne 199 ou notre ligne 220 dans notre portefeuille ou notre code d'accès. C'est quand même assez rare. Ou c'est rare que je me promène avec mon avis de cotisation d'entreprise puis le numéro d'invitation. Donc, c'est des renseignements, ce sont des secrets partagés. Des secrets vraiment au sens des règles du Conseil du Trésor. Mais moi, je pense que c'est un système qui est très sécuritaire. Puis, autant en termes de technologie qu'en termes de processus. Et même, je dirais plus que ça, je dirais que je pense que j'ai plus confiance au système électronique qu'au système papier. C'est plus compliqué d'obtenir un numéro TVQ par Internet que de l'obtenir papier.
Vous n'êtes pas d'accord avec le mot de passe,
signature, donc... Je suis d'accord avec le code d'utilisateur mot de passe, c'est juste que c'est pas une signature.
Okay. Mais tantôt, je ne sais pas si vous avez bien compris, vous avez dit que dans tous les cas, ça prenait du papier, une documentation papier.
Non.
Parce que c'est pas non. Parce que comme Patricia a dit tantôt, c'est qu'à partir du mois de novembre, la majorité des entreprises vont pouvoir s'inscrire de façon...
85%
de façon purement électronique. OK, purement électronique. Puis par la suite, vont pouvoir transiger avec le ministère du Revenu, envoyer le rapport de remise, ces choses-là, de façon purement électronique, sans en aucun moment avoir reçu une signature. OK, ça va être la majorité des cas à partir du 19 novembre 2006. OK, c'est pour ça que, c'est ça que je vous dis, on n'a pas de signature, mais par contre, tout se fait. Pour certaines entreprises, 85% des cas, tout va se faire de façon électronique.
Je ne suis pas sûr qu'on se comprend.
Parler assez fort pour qu'on puisse utiliser
le français. Encore par rapport à votre question pour la signature. Non, c'est correct. Je m'attendais.
Je savais.
À la base, disons que je tiens un alphabet sur un papier qui signe avec un X. Comment on fait ça chez
nous? Ben, le X, il y a des positions différentes. Il y a Royer qui a une position, il y a d'autres auteurs qui ont d'autres positions. Avant, le X était reconnu. Maintenant, compte tenu qu'on parle d'une marque personnelle, puis tout ça, il y a certains auteurs qui prétendent que le X n'est plus une marque personnelle, donc que c'est plus reconnu comme une signature. Premièrement, on n'a pas de X dans les... Comme pour ça, là, mettons qu'on l'aurait. Mettons qu'on a quelqu'un qui signe une demande d'inscription traditionnelle avec un X. Ben, si c'est quelqu'un qui a fait des affaires au ministère du Revenu souvent, il y a probablement des procédures administratives qui disent vérifier, par exemple, dans le dossier de cette personne-là, c'est toujours comme ça qu'elle signe. Parce que quelque part, des X, c'est... Bon, il peut y avoir plusieurs façons de faire le X, comme il peut y avoir plusieurs façons de signer, que des fois, la signature n'est même pas compréhensible. On ne sait même pas si c'est lui qui signe ou pas. Mais dans certains cas, moi, je pense que le X ne vaut pas grand-chose, mais encore là, c'est encore ma signature, tu sais, c'est encore l'interprétation puriste de la signature. Là.
Parce que moi, je comprends, je suis d'accord avec vous que premièrement, pour manifester un comportement sur un lien électronique, ça prend une étape, c'est un processus, c'est pas simplement un acte qui est lié sur le document papier. Je trouve que, d'une certaine façon, ça peut avoir peut-être une valeur plus intéressante de faire une solidarité, parce que je trouve qu'on manifeste un comportement d'une façon plus importante. Je vois pas vraiment la... Je connais rien dans le droit de la signature et tout ça, là, mais il me semble que je vois pas vraiment la question du débat. Est-ce que c'est une signature ou pas? Pourquoi ça vous dérangeait tant que ça qu'on dit que la suite d'étapes n'est pas une signature?
Ben, c'est peut-être une interprétation puriste. Comme je dis, moi, peut-être que la définition, quand on lit la définition de 28-27, là, et qu'on lit à 38. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait sur. Avant, l'ancienne disposition, c'était sur un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante pour manifester son consentement. La nouvelle version, là, avec la loi 4, celle qui maintenant, on dit « Ah, un acte, avant, c'était sûr, maintenant, c'est un acte. » Donc, la nouvelle version, c'est « La signature consiste dans la position qu'une personne fait à un acte de son nom. » Donc, il y a une notion de... Parce qu'en anglais, c'est « fixe ». C'est vraiment... Tu sais, c'est comme... indissociable. Il y a un caractère indissociable là, entre la marque personnelle et le document. Donc, à partir du moment où j'utilise un code pour initier une session, puis que j'ai un document, je pense que c'est une combinaison de moyens. Puis c'est pas plus mal, c'est pas moins bon. Cette loi-là, elle nous permet d'établir le lien entre un document et une personne par combinaison de moyens. Puis c'est une... Ben moi, il y a un caractère, c'est indissociable.
Le problème,
je pense que le débat, si on veut, peut-être un peu autour de ça, mais moi, je me dis, on est capable de... Pourquoi faire dire à une disposition quelque chose que je vois pas dedans, là? Même par interprétation, je n'arrive pas. Mais même encore, même si on arrivait, si c'était... Si ça nous donnait quelque chose de plus, comme nous, mettons, là, qu'on disait, il faut qu'on dise que c'est une signature, trouvez-moi les arguments pour qu'on puisse dire que c'est une signature. On n'en a même pas besoin. Tu sais, j'en ai pas besoin de la signature électronique. Mes documents n'ont pas besoin d'être signés.
C'est peut-être juste la question de la signature à la base.
C'est ça. Moi, peut-être que c'est une interprétation puriste, je ne sais pas, mais moi, oui, c'est ma position personnelle, mais c'est ma position professionnelle aussi. Parce que pour conseiller mon client, pour éviter qu'on soit dans le trouble, si à un moment donné, il y en a qui disent que c'est pas vrai, que c'est pas une signature, après ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans le passé est plus bon. Puis il y a quand même eu un jugement aussi à un moment donné, ça vaut ce que ça vaut, là, mais c'est un jugement de Michel Assolis, on avait déjà parlé de ce jugement-là, c'était le jugement P-System, là, je sais pas trop, là, il y avait de quoi là-dessus, mais c'était... Mais c'est... Moi, je lis l'article, puis je peux pas dire le contraire, mais peut-être quelqu'un le voit avec d'autres yeux, puis complètement d'accord à dire que c'est une signature. Là.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions?
Peut-être une information plus au niveau de la TRT, là, qui n'a pas rapport à la signature des... Nous, on travaille dans le projet depuis plus de 5 ans, là, puis on s'est aperçu que même si on était très, très avant-gardistes dans nos façons de faire, là, c'est lorsqu'on comparait le monde traditionnel versus le monde électronique, c'est que souvent, on était beaucoup, en termes de TRT, là, on était beaucoup plus exigeants dans le monde électronique qu'on était dans le monde traditionnel. Le monde traditionnel a encore beaucoup plus de failles que le monde électronique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut adapter ça aussi à la signature. Là, je veux dire, une signature, c'est une signature. En tout cas, c'était une de nos conclusions. C'est qu'on a toujours été beaucoup plus exigeants que dans le monde traditionnel. Lorsqu'on prenait des décisions, lorsqu'on évaluait le risque.
Il faut bien expliquer sa simplicité.
Parce que je vais vous donner juste une anecdote, parce qu'éventuellement, nous, on avait, pour un dossier particulier dans le domaine des échanges électroniques, on avait fait une belle procédure, je ne me rappelle pas pourquoi. C'est quoi donc, Patricia? L'authentification des contribuables. L'authentification, c'est que moi, j'avais dit, dans le monde électronique, ça fonctionne de même. Tout le monde respectait ça, ça allait très, très bien. À un moment donné, j'ai fait du copier-coller, j'ai pris cette procédure-là pour l'adapter au service à la clientèle, pour l'adapter pour un cas particulier à service à la clientèle. Mais à 9h le matin, il n'y a plus personne qui travaillait à la réception. Tout le monde, il n'y a personne qui voulait l'appliquer parce qu'il trouvait qu'on était trop exigeant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, j'ai pris la même qu'on demande dans le monde électronique, je l'ai mis au service à la clientèle. Puis il n'y a plus personne au service à la clientèle qui voulait travailler. Il trouvait qu'on était bien trop exigeant, qu'il n'y a plus rien qui allait fonctionner. Fait que c'est ça que je vous dis. Le monde électronique, même si on permet des choses, souvent, c'est plus fiable que ni plus ou moins qu'est-ce qu'on fait dans le monde traditionnel.
Mais si j'avais à frauder, je frauderais papier, moi. Je n'essayerais pas dans l'électronique. Ça passerait vraiment pas.
Mais justement, sur ce point-là, est-ce qu'il existe des chiffres sur les incidents, les soi-disant violations de confidentialité ou les tentatives d'intrusion?
Mais,
de la sécurité.
Mais nous, au ministère de revenus,
c'est
ça, il y a un registre. Il y a un registre qui doit être tenu là, au niveau de la sécurité et ces choses-là. À ma connaissance, je peux me tromper, là. Mais moi, depuis que les échanges électroniques, là, je pense pas. Je travaille beaucoup avec les gens de la vérification interne, ces choses-là. Là. Je ne pense pas qu'il y ait eu de problème. Quelconque d'incident.
Incident de sécurité.
À ma connaissance, je ne peux pas.
Non,
je ne penserais pas.
Et au cours des récentes années, il y a combien de. Quelle est la proportion des contribuables qui utilisent les services électroniques?
Bien, pour la production de la déclaration de revenus, on est quoi? 1,5 million par eux-mêmes, c'est ça?
Pour la transmission, tu
la parles? La transmission électronique par eux-mêmes, c'est 1,5 million.
Qui représente 20%.
Oh, et pour les services électroniques, au moins pour l'envoi de la déclaration de revenus, là, on a passé le 1,5 million, je pense, en 2005, qui transmettent eux-mêmes ou avec préparateur.
Mais pas moi.
Les chiffres, en tout cas, il y a peut-être des informations sur le site là-dessus.
Mais
puis on a... peut-être quoi, 60-70 000 inscriptions avec les revenus.
OK. Mais par contre, il faut faire attention, parce qu'au ministère du Revenu, les efforts ont été portés vraiment plus au niveau des entreprises. Les entreprises utilisent, il y a une quantité importante d'entreprises qui utilisent, parce qu'ils ont c'est récurrent aussi, ils ont des services récurrents. Tandis qu'au niveau du particulier, c'est tout nouveau. Là. Si on fait abstraction de pouvoir transmettre sa déclaration de revenus, le seul service qui est accessible depuis très récemment, c'est 2004, je crois. Là, c'est l'avis de cotisation dont Patricia a grandement parlé. C'est une fois par année, puis il y a moins de... OK, mais c'est ça que je vous dis. Au niveau de l'entreprise, ça fait longtemps que les gens l'utilisent. Il y a un nombre important. Au niveau du particulier, c'est parce que, dans le fond, on n'a pas beaucoup de choses qui peuvent être accessibles aux particuliers. Mais ce qu'on disait dans les continuités, éventuellement, c'est on parle plus de mon dossier. De mon dossier, mais c'est quelque chose qui va être plus intéressant. Les efforts n'ont pas été vraiment mis au niveau du particulier, ce n'est de pouvoir obtenir un code d'utilisateur mot de passe en ligne.
Mais c'est parce qu'au début, en 1999, on a visé, on s'est dit, ceux qui vont aller dans les services électroniques, ce sont les PME, puis les petites entreprises. Et là, on a bâti un système pour les petites et moyennes entreprises. Et on s'est aperçu que ce n'était pas nécessairement la clientèle qui adhérait. Et là, on a eu un genre de tournant là, dans les deux dernières années pour plutôt accommoder les grandes firmes comptables, par exemple. justement avec la création du rôle du responsable des procurations externes, les gens sur le terrain sont allés rencontrer les entreprises, ont demandé souvent dans les colloques de la PFF, l'Association des planificateurs souvent les gens sont allés sur le terrain pour demander justement de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous énerve dans ces services-là, puis qu'est-ce que vous voudriez voir comme amélioration, puis qu'est-ce que vous aimez de notre côté, qu'est-ce que vous voulez qu'on tienne, qu'on garde, puis que... Et il y a eu vraiment un travail de fait sur le terrain, puis c'est toujours en évolution. Puis justement, dans les dernières années, on a eu beaucoup de critiques. Un des points majeurs sur lesquels on s'est fait taper dessus, c'est qu'on demandait des renseignements personnels aux représentants autorisés et aux responsables des services électroniques. Parce qu'on disait, comment est-ce qu'on peut l'authentifier, lui, c'est... Mais quand on arrivait, là, par exemple... Surtout qu'on avait juste deux responsables des services électroniques, là on augmentait le nombre, qu'on demandait, je sais pas, moi, au président de Bombardier, donne-moi ton AS. Il était numéro d'assurance sociale, il était un petit peu réfractaire. Fait qu'il y avait un frein justement à l'inscription à cause des données personnelles qu'on demandait, alors que les gens agissaient dans le cadre de leur travail. Donc, on a eu un virage l'année passée. Incroyable. Un soir à 5h15 dans le bureau du sous-ministre adjoint, la décision a été prise qu'on enlevait tous les renseignements personnels et qu'on se créait des secrets, qu'on trouvait des secrets dont on vous a parlé tantôt. Donc, le secret numéro d'avis de cotisation, parce qu'on a dit, bon, là, on n'authentifiera plus des personnes, on va y aller vraiment avec l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui est responsable des gestes qui sont posés. Donc, pour protéger, ça a toujours passé, on avait passé à la commission d'action, on a eu des discussions avec le fédéral pour l'utilisation du numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Donc, on ne l'exigeait pas, on le demandait, et la sanction, si on veut, de ne pas le donner, c'est qu'il ne pouvait pas utiliser les services électroniques. C'était un peu la position qu'on avait depuis le début, mais là, on voyait, on disait, il y a sûrement une façon de contourner ce problème-là, d'essayer, en tout cas, du moins, de le régler, puis d'éviter d'utiliser des renseignements personnels pour un employé d'une entreprise ou... Et on est allé avec justement le secret. On a développé des secrets. Mais c'est ça, c'est que souvent on voit le résultat comme ça quand on est de l'extérieur. Ça peut paraître banal, mais il y a eu des heures de travail, des heures de discussion, autant au niveau légal qu'au niveau politique, qu'au niveau des... Il fallait qu'on s'attache, parce que si Revenu Québec en ligne plante, là, ça va pas bien, là. Tu sais, on a vraiment tout attaché, puis avant que quelque chose soit en ligne, c'est des heures de débat, de discussion, d'essayer de trouver le moyen le plus sécuritaire avec la sécurité informatique. Puis c'est un peu ce que Jacques exposait en conclusion. Ça a été un travail d'équipe incroyable. Ça a été un travail de s'asseoir avec tout le monde qui ne se parle pas d'habitude, là. Puis d'essayer de se comprendre. Là. Le juridique, déjà, on est un peu incompris. On est toujours les empêcheurs de tourner en rond, puis vous ne comprenez pas, puis le développement veut partir, puis on ne comprend pas. Mais ça a été une super belle dynamique qui s'est installée avec les années. Puis c'est encore comme ça. Maintenant, on est vraiment au début du projet, ils nous appellent, ils disent « on veut faire telle affaire, ça se peut-tu? » On leur donne un go, mais on est toujours au niveau des ateliers de travail, puis justement pour être en mesure, on a des gens qui vont rencontrer les entreprises sur le terrain ou les particuliers, on a des focus groups pour savoir de quoi ils ont peur, justement. Donc c'est un travail qui est en constante évolution, mais c'est quelque chose qui a peut-être l'air simple quand on le voit là, mais c'est incroyable, là, c'est à travers quoi on a passé pour arriver là. Là.
Combien de personnes avez-vous
besoin
pour gérer le service électronique de Revenu Québec?
Pour le gérer en entretien ou...
Non, seulement les personnes que vous avez... Quel est le nombre de travailleurs que vous avez besoin pour...
En période de développement avec les consultants, nous, on a travaillé avec SGS. Pour le développement en 99-2000, quand l'appel d'offres est sorti, c'est SGS qui est venu travailler avec nous. En période de livraison, de développement, là, ça peut 400-500 personnes. Là. On a atteint le 400-500 personnes. On a une boîte qui est montée depuis 2000 qui s'appelle la Direction des solutions d'affaires électroniques, qui a changé de nom parce que c'est la mode au gouvernement. Hein, c'est, quand on s'habitue à un nom, on le change. Là, maintenant, ça s'appelle la Direction des traitements de masse, systèmes, je ne sais pas trop. Mais là, on est dans une période où on livre une nouvelle livraison et que pour l'instant, c'est sûr que c'est très compliqué avec les règles du Conseil du Trésor pour les budgets, tout ça, il y a eu des changements. Pour l'instant, on est un peu en mode continuité. Fait que là, les consultants sont partis. La plupart des consultants. Fait que là, il y a une boîte d'à peu près, une cinquantaine de personnes en continuité, mais c'est sûr qu'il y a des gens au service de sécurité informatique, il y a des gens au service à la clientèle. Pour répondre aux questions, il y a des gens au milieu utilisateur, justement, pour activer les inscriptions, communiquer quand il manque des informations. Il y a un centre d'appel à Chandler. Tout ce qui est un problème au niveau des systèmes, si on a un problème avec un service électronique, le centre d'appel est à Chandler, en Gaspésie. Donc, il y a quand même plusieurs employés à Chandler. Je pense que c'est un investissement qui... Ça a été un gros investissement, mais c'est quelque chose qu'on...
Mais par contre, quand on parle des entreprises, il y a une plus-value. Là. Pour le ministère du Revenu, le projet d'échange électronique, c'est toujours ses fonctions de la plus-value. Quand on parle des entreprises, il y a une masse importante. Fait qu'il y a de l'argent à récupérer là, au niveau de...
Mais juste l'arrêt des formulaires papier. Là. Juste le fait qu'on ait pu imprimer des formulaires papier pour qu'ils nous les retournent. Toute cette gestion-là, on sauve énormément. Les déclarations de revenus, même des particuliers, sont de 1,5 million qui n'en prennent pas papier. Là. On réduit les coûts. Là. C'est quand même assez impressionnant. Là. Moi, je pense qu'on n'atteindra jamais le bureau sans papier. C'est l'espèce de belle utopie qu'il y avait il y a quelques années, le bureau sans papier, tout ça. Je pense qu'il va toujours avoir un besoin d'avoir un mode traditionnel parce que l'informatique, ça plante. Hein? Fait que si à un moment donné, on a une entreprise qui arrive à minuit moins une pour transmettre sa déclaration papier, ou en tout cas 5h moins quart, mettons, transmettre sa déclaration, le système est planté, ça reste quand même qu'elle est responsable de l'envoyer, donc elle va devoir venir au comptoir le lendemain avec sa déclaration papier. C'est que le fait que notre service soit planté, on n'est pas responsable de ça. C'est sûr qu'il peut y avoir peut-être des arrangements avec les gens si jamais une situation particulière, mais ça reste quand même que moi, je pense pas qu'on va passer à un bureau sans papier. Puis même que je parlais avec un de nos experts qui est vraiment, vraiment spécialisé dans tout ce qui est signature électronique, tout ce qui est truc informatique, là, toutes les bébites informatiques, là, bien compliquées, là, lui, il est bien bon là-dedans. Puis il me parlait qu'il est allé à une conférence. Je pense, Maître Houdel, vous avez donné une conférence la semaine passée ou il y a deux semaines à Montréal. Vous en donnez tellement que vous aurez... Vous n'avez pas parlé dernièrement pour un... Puis il y avait un monsieur spécialiste en cryptologie ou en cryptographie, non? En tout cas, je ne sais plus c'était qui, mais il y avait... En tout cas, lui, il a parlé... il est venu me voir la semaine passée, puis il me parlait justement qu'il y avait une nouvelle tendance en Europe, que c'était devenu le retour au mode traditionnel. C'est que là, il faisait de la publicité... Non pas sur les services électroniques, mais plutôt sur on vous offre encore des services traditionnels. Donc, un peu comme on a vu avec, je pense, c'est la banque TD à un moment donné qui disait il y a encore quelqu'un en arrière du comptoir qui vous parle. Donc, il semblerait qu'il y aurait même un retour dans certains pays d'Europe vers une publicité pour des modes traditionnels. Fait que je ne sais pas si on va suivre ce courant-là. Je pense qu'il y a toujours de la place pour un mode traditionnel. Mais on vise de plus en plus l'ère électronique, c'est sûr, les services électroniques. Là. Mais pour la crainte, c'est sûr qu'il y a des employés qui ont la gestion du changement qui appellent. C'est sûr que ceux qui ouvrent le courrier ont moins de travail, mais éventuellement, ils cherchent peut-être à réorienter certains emplois, peut-être réorienter des personnes dans d'autres tâches qui sont plus d'actualité, si on veut. Là.
Oui, je souhaitais rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez sur le débat entourant
la signature électorale.
Par rapport à la version mise en place de ce programme, je souhaitais savoir si vous aviez intéressé les entreprises et puis, par exemple, les associations de contribuables, tous les gens qui seraient intéressés par ça, à ce processus, à ces débats. En fait, je voudrais savoir s'il y a une culture de la négociation au sein du ministère de Retenue, et si négociation est étudiée, à quel niveau, c'est des fonctionnaires qui sont autour d'une table avec les représentants de la société, les représentants des organisations, les représentants des entreprises, ou alors c'est vraiment au niveau du ministre, du sous-ministre, si négociation est étudiée.
Mais négociation en termes d'évolution des services, du besoin que la clientèle a, ou négociation au niveau d'une résolution de conflit?
Une consultation préalable, disons plus une consultation pour savoir si ça va dans le sens des attentes de vos contribuables. Est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce qu'ils sont appelés à formuler des recommandations ou formuler des attentes avant que vous soyez entré dans cette démarche
d'élaboration? Il y a eu à plusieurs reprises des focus groups, là, qui se sont, dans le fond, que vraiment des gens ont demandé, par exemple, à des entreprises, des entrepreneurs qu'ils ont rassemblés dans une salle, puis ont dit, essayez ça. Puis dites-nous tout de suite ce que vous pensez. Dites-nous vos commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile à utiliser? Comme notre inscription aux lois fiscales n'est pas simple. Bien, on l'a fait simple, mais déjà, sur papier, c'est compliqué. Puis la loi sur les impôts, puis la loi sur les taxes, c'est compliqué. Fait qu'on peut pas changer toute la terminologie. Donc, c'est sûr que si les groupes nous disent « on comprend pas c'est quoi un petit fournisseur », bien, on peut faire l'exercice du mieux qu'on peut, mais ça va toujours s'appeler un petit fournisseur. Donc, oui, il y a au niveau des entrepreneurs qu'il y a eu, ou des particuliers, on fait régulièrement des focus groups, mais il y a aussi des associations, comme moi, souvent, les gens, moi, je travaille dans une direction, je travaille à la direction des lois sur les taxes. Je suis là parce que ma matière est là, pas parce que je suis fiscaliste, mais je travaille avec les fiscalistes. Et eux sont souvent appelés à faire des conférences, par exemple, au colloque de la PFF, des fois, ils vont faire dans d'autres provinces. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de présentations à faire sur les règles fiscales du Québec. Et, by the way, ils parlent des services électroniques. Donc, souvent, les gens qui sont dans la salle ont des questions, ne se gênent pas pour faire des commentaires. C'est rare qu'ils se gênent pour ça, mais... Et ces questions-là sont prises en compte. C'est sûr, comme là, j'ai une de mes collègues qui est allée faire au colloque à la PFF, est revenu. Donc, c'est tous des professionnels de la fiscalité, des comptables, des avocats qui sont là, donc les utilisateurs pour leurs clients des services Clic Revenus. Bon, au niveau où je pense qu'on écoute les besoins des utilisateurs, il y a un site où les gens peuvent faire des commentaires, mais aussi au niveau politique, il y a sûrement des discussions. Là. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas si le ministre Bergman parle avec le représentant, le bâtonnier ou le représentant, le président de l'association des comptables. J'imagine que oui, parce qu'ils doivent quand même... Mais je ne suis pas sûre qu'ils parlent à un niveau aussi micro que nous autres. C'est probablement plus macro. Tu sais, des fois, on... Je pense que les choses se règlent plus sur le terrain qu'au niveau politique pour ces choses-là, parce que c'est les vrais utilisateurs qui ont des commentaires à faire, puis nous, qui pouvons changer les choses, on essaie de donner suite à leurs demandes.
Il n'y a pas une ouverture formalisée?
Un genre de forum où les gens peuvent s'exprimer sur les services électroniques à haut niveau?
C'est-à-dire que vous mettez autour d'une table avec les représentants, et là, vous ne pas pour faire la place, par exemple, électronique de Revenu Québec, ben là vous discutez avec les gens carrément. Ils sont là, ils sont partie prenante en fait.
C'est
ça que je veux dire.
Ben, une
somme
formelle.
Mais Patricia, mais nous, moi je me trompe, là, la dernière livraison, celle qu'on a le 19 novembre, là, c'est pour répondre aux différentes exigences, aux différentes préoccupations de notre clientèle. Je veux dire, justement, il y a des gens, là, nos partenaires d'affaires, hein, à Revenu Québec, il y a des gens qui s'occupent uniquement des partenaires d'affaires dans le cadre des échanges électroniques. qu'on a rencontré, ces gens-là ont rencontré les gens pour connaître leurs besoins, pour connaître leurs préoccupations. D'ailleurs, le plus bel exemple, le rôle tantôt qu'on parlait du RPE, le responsable des procurations externes, c'est quelque chose qui paraît très, très simple et relativement complexe, parce que nous autres, il faut tout le temps se rattacher à nos conditions d'utilisation, là, nos conditions au point de vue légal. Mais je veux dire, ça, c'était une demande formelle de ces gens-là. Là. Je veux dire, oui, si on les consulte, nos principaux partenaires d'affaires, les firmes de comptables, tout ça, pour avoir leurs opinions, leurs points de vue, pour leur demander qu'est-ce qui faciliterait leurs tâches pour qu'ils s'inscrivent davantage. C'est pour ça aussi qu'on a simplifié l'inscription, ces choses-là. C'est suite aux exigences de...
Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, la clientèle aime ça être traité un peu de façon privilégiée. Tu sais, les grandes firmes, les grandes tables, ces choses-là, les gens n'ont pas nécessairement l'impression d'être écoutés. Puis, il y a vraiment un souci de Revenu Québec d'une approche clientèle personnalisée. Là. Donc, moi, j'ai déjà assisté à une rencontre avec une des sous-ministres adjointes où il y avait les principaux vice-présidents fiscalité des plus grandes entreprises au Canada et elle les écoutait, là. Puis elle disait, c'était pas pour les services électroniques, là, c'était... Et elle les écoutait, puis elle disait, « Oui, vous avez besoin... Écoutez, je vais voir, je vais essayer de voir avec mon monde ce qu'on peut faire pour... » Donc, ils aiment ça. Tu sais, les grandes entreprises, là, ils aiment ça être écoutés, ils aiment ça avoir l'impression qu'on fait quelque chose pour eux. Et c'est le cas. Donc, quand on a réalisé que les grandes firmes comptables étaient un potentiel incroyable au niveau des services électroniques, parce que nos PME, souvent, donnent leurs affaires à un comptable. Donc, on avait peut-être manqué la cible au départ. Là, on s'est dit, ceux qu'il faut aller chercher, ce sont les grandes firmes comptables. Alors, il y a des gens chez nous qui sont partis, qui ont monté quelque chose pour leur faire une proposition. Puis, on dit, écoutez, si on met ça en ligne, vous, là, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que vous allez plus embarquer avec nous autres dans les services électroniques si on vous offre quelque chose qui ressemble à ça? Là, ils sont arrivés, les grandes firmes comptables, on parle de 2-3 grandes firmes. Là, il disait, la préoccupation qu'on a, nous autres, là, c'est que, par exemple, une firme comme Samson Bellair, c'est la première qui me vient en tête, dit, moi, j'aime bien ça, tes services électroniques, mais le rôle de responsable des services électroniques, là, ça donne accès au dossier de l'entreprise. Donc, moi, là, pour que mon responsable des services électroniques puisse donner des procurations aux utilisateurs, je peux en nommer deux. Il faut que ce soit deux personnes de confiance. Ces deux personnes-là, là, pour être dans le secret des dieux de la déclaration de revenus de Samson Bellair, par exemple, ils n'ont pas nécessairement le temps de gérer les accès du comptable un tel à Rouyn-Noranda. Là. Donc, ils se ramassent dans une situation où ils disent on n'embarque pas parce que, un, les gens à qui on fait confiance, c'est trop haut niveau pour gérer vos accès. C'est trop compliqué. Donnez les droits d'accès à des gens plus bas et donnez-en plus. Donc, ils voulaient gérer, certaines firmes comptables exprimaient un besoin de gérer par un genre de régionalisation. Ils disaient, on va nommer un RSE par succursale. C'est des gens, mettons, le directeur du bureau, quelque chose comme ça, et ça va répondre à nos besoins. Par contre, il y en avait d'autres qui disaient, moi, mon besoin, c'est que on n'ait pas toujours besoin de revenir au RSE. On veut que quelqu'un soit capable de gérer des procurations dans son bureau. Parce que moi, si je donne une procuration à Rouyn-Noranda au comptable Trudel, moi, si j'arrive, puis je dis c'est le comptable Trudel, puis on va dire, bien là, votre dossier, il faut qu'il passe par Montréal pour passer par M. Intel pour qu'il puisse donner les droits d'accès. La personne, elle dit, non, moi, c'est lui que je veux. Donc, c'est un besoin qui est exprimé, deux besoins en réalité, pour lesquels on s'est vraiment assis, ils sont revenus avec une proposition, puis ils disaient ça, est-ce que ça répond à votre besoin? Puis finalement, les firmes comptables qui ont été consultées, on parle des plus grandes, puis on parle de plusieurs comptables des moyennes firmes, là, qui ont dit oui, ça répond à nos besoins. Donc, c'était plus un contact privilégié qu'une association. Il y en a de ça, mais je pense que l'évolution des services Clic Revenus, ça s'est vraiment fait quand nos gens sont allés sur le terrain, rencontrer les clients, puis savoir. Et il y a des formats, il y a des si on veut, des périodes. On a quelqu'un qui fait beaucoup de présentations, qui va à des endroits, l'association des travailleurs autonomes, des choses comme ça, qui vont sur place présenter les services. Peut-être pas présenter si on vous a présenté aujourd'hui, eux autres, c'est pas nécessairement ça qu'ils attendent, mais plus de présenter des fonctionnalités, comment est-ce que ça fonctionne, ce que ça donne de plus. Donc, il y a un genre d'éducation populaire des services électroniques dans les milieux qui peuvent être intéressés par les services. Je pense que le contact avec la clientèle est là. Et le ministère est très à l'écoute des besoins de la clientèle. S'il n'embarque pas, on a développé ça pour rien. Là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Écoutez, je vous propose peut-être, je vais d'abord remercier nos conférenciers d'aujourd'hui. Si vous le souhaitez, je pense qu'ils sont encore ici pendant quelques minutes, vous pourrez peut-être éventuellement interagir si vous le souhaitez. Mais je propose de mettre fin à la partie publique de notre rencontre d'aujourd'hui en remerciant donc Maître Patriciano et M. Jacques Gilbert. Merci d'être venu nous éclairer sur ces systèmes tout à fait passionnants. Merci de nous avoir mis au fait de la façon dont tout ça a été développé. Merci de nous avoir fait bénéficier donc de votre expérience. Et donc, à vous tous qui êtes dans nos entretiens, ben, je vous dis à la prochaine fois. Nos entretiens reprendront en janvier, selon un programme qui sera annoncé très bientôt en ligne.